Salut mes petites chèvres et bienvenue dans The Marvel Initiative. Je suis Sofiane, on m'appelle Lady Sof dans le milieu. Et avec moi comme toujours le dieu du book, Maxime.
Salut.
Il fait 40 degrés à Paris.
On crève de chaud littéralement.
Voilà, on est limite en train de se demander pourquoi on est en train d'enregistrer ça là maintenant.
Tout ça pour vos belles oreilles.
On est un peu comme Gore au début du film.
Ouais, un peu ouais.
On va se mettre à genoux et dire adieu s'il te plaît Dieu. Sauve la planète.
On fait des prières.
Bah, c'est tout ce qui nous reste. Hein. On ne peut plus qu'attendre une intervention divine pour arranger tout ça.
Il n'y a plus que ça.
Il
n'y
a plus que ça à faire maintenant. Donc. Alors Thor 4, moi Ragnarok, c'était un de mes... C'est un de mes films du MCU préférés.
Same.
Ouais, c'était peut-être même mon préféré quand on avait fait le classement, si je ne me trompe
je crois
pas. Je l'avais
mis en parlait souvent parmi les premiers. Premier, ouais.
C'était un peu mon top 3... C'était ça, il y avait quoi d'autre? Il y avait Iron Man 3.
Winter Soldier, peut-être?
Peut-être Winter Soldier,
je pense.
Mais, je crois que c'était un peu ça. D'ailleurs,
peut-être si Infinity War aussi.
Si vous voulez entendre cet épisode, c'est sur le Patreon, d'ailleurs.
Ouais.
Qu'on avait fait un épisode où on avait classé tous les films du MCU jusqu'à Endgame.
Je pense que c'était après Endgame, ouais, parce qu'il ne me semble pas qu'on avait parlé des séries,
ouais,
ça c'est sûr.
Ouais, non, il n'y avait pas de séries, il n'y avait pas Black Widow. Y avait Qu'est-ce que t'attendais de...
Moi j'étais très chaud parce que j'adore les comics que ça adapte.
Ouais.
Et puis parce que j'avoue que parmi les personnages du MCU, Thor est quand même parmi mes préférés. Surtout que c'est celui qui a le plus de films maintenant officiellement, hein, qui doit avoir aussi le plus d'apparitions.
Ouais.
Au moins avec. Enfin, il doit être avec.
Il apparaît pas dans beaucoup de films des autres.
C'est vrai.
Tu vois?
C'est vrai qu'il apparaît pas dans beaucoup de films, si ce n'est les Avengers où il est toujours
dans les Avengers,
d'une manière
mais
ou une
sinon
autre.
Il apparaît pas dans les films des autres.
C'est vrai.
C'est un personnage qui a toujours été un peu à part quand même. C'est lui qui a l'arc le plus développé, je pense, de très loin du MCU.
Même si son arc de développement se passe sur une dizaine d'années, alors qu'il est censé en avoir des milliers.
Ah, bah ça, c'est comme les vampires, hein, dans les films et dans les séries, les vampires, il se passe toujours beaucoup plus de trucs. Surtout quand il rencontre la fille de 16 ans.
Oui.
Là, ça change tout la plupart du temps. Ouais, j'attendais beaucoup de ce film. J'aime beaucoup ce que Waititi fait la plupart du temps.
Ouais.
Même si j'ai été un peu moins fan de ses deux derniers projets.
T'as pas aimé Jojo Rabbit ?
C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai trouvé que ça tirait un peu trop sur la corde. C'est un peu nunu.
Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Moi, j'avoue que c'est un film que j'ai beaucoup aimé, mais je comprends ce côté un peu mélodramatique pour le mélodramatique. Quoi.
Ouais, voilà. Mm-hmm. Je sais pas. Est-ce qu'on a encore besoin de se moquer d'Adolf Hitler de nos jours ?
Bah, je trouve que le film se moque pas tant d'Adolf Hitler que ça.
Bah, il devrait.
Mais je trouve ça intéressant parce que il y a peu de films au final qui parlent de l'embrigadement via les enfants, en fait. Et ça, c'est intéressant comme thématique. Alors, c'est vrai qu'après. Le film n'est pas parfait, mais moi, il m'avait bien touché.
Bah, en fait, je pense que ce qui doit plaire à beaucoup de gens vis-à-vis de Waititi, c'est qu'il mélange des sujets très dark avec beaucoup d'humour. Et ça passe ou ça casse.
Oui.
Tu vois ?
Ça passe mieux sur What We Do in the Shadows, quoi.
Ça passe... Ouais, What We Do in the Shadows, encore, il n'y a pas trop de drama.
Il y a moins de drama.
Ouais, justement, quand il est full comédie, je trouve qu'il fonctionne mieux.
Ouais.
Là, sa dernière série, par exemple, Our Flag Means Death, je trouve que... Justement, il était trop de faire du drama.
Je l'ai pas vu moi, donc je
trouve que ça manque. Enfin, je me suis pas vraiment marré. J'ai vu 5-6 épisodes et je me suis pas vraiment marré devant, quoi. Contrairement à What We Do in the Shadows, où là, je suis un.
Oui, c'est full comédie de toute façon.
Et je trouve que le personnage, il va trop dans le troll. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on sait pas s'il est sérieux ou non.
Mm-hmm.
Et là, pendant la promo, il a dit quand même beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que les director's cut c'était de la merde.
Ouais.
Que de toute façon, c'est bien quand les studios se mêlent parce que les réalisateurs, ils devraient pas avoir les pleins pouvoirs. Il a dit devant Nathalie Portman ah, t'étais dans les.
Oui, parce qu'il voulait lui proposer un rôle dans son film Star Wars.
T'étais dans la prélogie ? Oh, celui-là, je ne le regarde pas. Alors, comment énerver les fans de Star Wars ? C'est de dire j'ai pas regardé les trois films que George a fait. Et je crois qu'il a dû encore en faire d'autres.
Après, il y a la fameuse scène avec Tessa Thompson où il regarde des images de la série. Je crois que c'était GQ ou un truc comme ça, où il parle des effets spéciaux qui sont ratés sur
de
certaines
bien
scènes.
Bien sûr, il y a ça aussi.
On va y revenir.
Quand on entend ce qui est tombé un peu sur Marvel dernièrement et la culture
le timing n'était pas,
pas
dingo.
C'était à peu près le même jour, hein, si je ne me trompe pas. Il fait une remarque pour se moquer des effets spéciaux de Marvel pendant qu'en même temps, les gens qui travaillent sur les effets spéciaux disent que
leurs conditions de travail sont catastrophiques.
Leurs conditions de travail sont affreuses, qu'on les force à travailler avec des deadlines pas possibles, qu'ils sont en stress tout le temps, qu'ils font des heures sup pas payées. Et lui, en même temps, là, avec ses fringues de designer, super bien coiffé, bronzé, classe, les dents toutes blanches, qui va te faire « Ah, les effets spéciaux, ils sont pourris, tu vois, t'as envie un peu de lui dire... »
Je sais plus où j'ai entendu ça dernièrement, mais il y a quelqu'un, ça devait être dans un podcast que j'ai écouté, qui disait qu'il ne fallait jamais écouter ou prendre pour acquis ce que disaient les gens pendant les promos des films Marvel. Et ouais, je suis quand même assez d'accord avec ça.
Non, mais c'est vrai. Mais en même temps, il devrait peut-être mieux choisir ses batailles. Tu vois ?
Oui, non, mais de toute façon, apparemment, Taika Waititi a l'air très sympathique comme ça. Mais visiblement, c'est pas quelqu'un de si sympathique que ça.
Ah ouais.
Donc, moi, j'en ai pas fait l'expérience. Hein, donc, c'est juste que j'ai pu entendre.
Tu connais pas Taika Waititi ? Je croyais que t'étais pote.
Écoute, on a la même moustache, mais on n'a pas la même passion. Et encore, il l'a plus. Ouais, c'est un personnage qui a l'air d'être assez particulier, et même s'il renvoie une image de mec très cool, très dans le troll, comme tu disais, c'est vrai que bon, au final, les échos sont pas si dingos que ça sur lui, donc il y a un peu une face sombre sur Taika Waititi.
Ah ok, je savais pas.
Je l'ai découvert il y a pas longtemps non plus, hein, par des échos de gens qui ont pu l'interviewer ou des choses comme ça. Mais après, moi, le personnage m'est sympathique.
Disons que c'est le genre de mec, tu sais, un peu à la Robert Downey Jr.
Ouais,
ou à la Jeff Goldblum, les mecs qui se la pètent.
Mm-mm.
Et on ne sait pas s'ils se la pètent pour de vrai ou pour de faux.
Ouais, si c'est juste pour les caméras ou si
exactement,
il se prend au sérieux.
Un peu dans la situation où on ne sait pas vraiment. Il y a des trucs sur la production, je n'ai pas regardé.
Ce qui était sympa, c'est comment il avait été annoncé avec Nathalie Portman qui était arrivée, je crois que c'était au Comic-Con ou quelque chose comme ça. Où il lui avait,
avec le micro, avec le marteau.
Ouais, Taika Waititi s'était mis à genoux devant elle, enfin avait posé un pied à terre et lui avait tendu le marteau pour annoncer son retour dans le MCU officiellement, quoi.
Et je me rappelle, j'avais dit, on dirait qu'elle a pas la force pour porter le marteau, parce qu'elle est toute frêle.
Ouais. Et plus maintenant, enfin pas pour le film en tout cas.
Quand tu la vois à l'époque de Black Swan, où là elle est vraiment squelettique, et tu la vois là dans ce film, c'est un monde, quoi.
C'est
rare pour les femmes.
Oui.
Les hommes, Christian Bale qui est dans le film par exemple, lui à chaque film il va faire un poids différent.
Ah, c'est sa marque de fabrique. Hein.
Un mec comme Tom Hardy va faire une voix différente, tu vois. Mais les grandes actrices sont sous. Par exemple, Meryl Streep, elle se fond dans les rôles, etc. Mais c'est rare qu'on la voie prendre du poids ou perdre du poids ou ce genre de truc, parce que les femmes, on les force à être d'un certain
canon de beauté.
Voilà, exactement, ouais. D'être fine tout le temps. Et là, je trouvais ça intéressant, justement, ce qu'ils ont fait avec Nathalie, au final.
Je sais pas si tu te souviens, la première bande-annonce qui est sortie de Thor 4, le plan où on la voit avec son masque, elle est à peine reconnaissable au niveau du visage, tellement elle a une mâchoire bien plus marquée, les bras vachement plus costauds, enfin, c'est impressionnant. Ouais.
Il y a un gros problème avec les bras de Nathalie Portman. C'est que les scènes où elle est Jane, on voit encore qu'elle a des gros bras et elle a une perruque.
Ouais.
Et ça se voit vraiment qu'elle a une perruque.
Ça se voit qu'elle a une perruque.
Et là, elle est censée être mince, elle est censée être... Ils auraient peut-être dû se démerder pour filmer le truc 6 mois avant ou j'en sais rien, mais bon, ça aurait été impossible, j'imagine.
Ouais, je pense qu'en termes de production...
Mais c'est vrai que c'est juste le petit détail que tu vois. La première fois que tu vois Jane, j'ai vu, ils filment pas ses bras, ils font exprès de... Et surtout la perruque, quoi. Enfin, la perruque, c'est évident. On connaît tous les cheveux de Nathalie Portman, tu vois.
C'est ça, oui. Et quand elle est en Mighty Thor, ses cheveux deviennent blonds, très longs, enfin genre oui.
Et là, tu vois que c'est des vrais cheveux, là. Ouais. Là, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. On sait rien des films Marvel.
Non, malheureusement. Et même, ils arrivent quand même à sortir des documentaires sur Disney Plus de 50 minutes avec du vide.
Ah, ils disent rien, les trucs.
C'est
le truc de Doctor Strange, là, que t'as regardé, c'est ça ?
Ouais.
Et alors, ça donnait quoi ?
C'est un peu sympa si t'as envie de voir un peu les backstage d'un tournage de film de Marvel.
Et c'est écran vert partout ?
C'est écran vert partout, et puis c'est surtout que c'est très consensuel, t'as pas une parole libérée, c'est du making-of de notre génération, quoi. De maintenant.
Ça n'existe plus, les making-of.
Ouais, c'est ça, il n'y a plus de vrai making-of comme ça se faisait avant, où tu pouvais même avoir des réalisateurs ou même des acteurs qui parlaient ouvertement de ce qui se passait vraiment sur le tournage.
Oui, Art of Darkness, ou juste le making-of de La Menace Fantôme.
Par exemple.
Super intéressant à regarder, parce que c'est vraiment un mec qui décide tout, alors qu'il n'a aucune idée de ce qu'il est en train de faire.
Et c'est assez fascinant.
C'est super drôle à regarder, parce que tout le monde est là. C'est bien, Georges, c'est bien. Et puis une fois qu'ils voient le film, ils sont tous tout blancs, tout pâles. Genre, oh putain, qu'est-ce qui vient de se passer ? Et Georges, il est là, genre... Georges qui nous sort... Ouais, j'ai peut-être un peu abusé à quelques endroits.
Un petit peu, ouais.
On va faire comment ? Bah rien, parce que le film, il est déjà monté, quoi. Bon, bah ok, on fait comme ça. C'est très intéressant à regarder avec le recul, parce que c'est vrai que quand moi j'étais ado que je regardais, c'était genre, Georges, il est intelligent. Il
fait oui, c'est ça. Tu vois.
Mais en fait, quand tu reprends le recul, et ça manque quand même des bons making-of.
Bah c'est vrai que c'est vachement, vachement triste de plus avoir cette partie-là du cinéma, parce que c'est aussi un peu le côté fascinant que t'as pas l'habitude de voir, et où justement, tu peux avoir des... Je pense au documentaire qui a été fait Fucking Kassovitz, tu vois, par exemple, qui est un vrai documentaire sur le tournage d'un film et à quel point ça peut devenir catastrophique à partir du moment où t'as un réal et un acteur qui matchent pas du tout ensemble pour différentes raisons, quoi.
Le film a un budget de 250 millions.
Ça, c'est incompréhensible, par contre.
50 millions de plus que la plupart du temps.
Ouais.
D'habitude, je fais tout le temps.
Alors,
200 millions.
Je pense qu'une des raisons, c'est le casting, qui est quand même assez, assez costaud.
Bale, il doit demander chaud patate.
Oui, et puis il n'y a pas que lui, il y a Russell Crowe aussi qui doit demander, même s'il n'est pas là longtemps. Ouais, mais il doit cachetonner quand même.
Ouais, tu penses
quand même. Bah, je pense, oui. Mais même Chris Hemsworth, hein, qui doit être un des acteurs américains maintenant les mieux payés, honnêtement.
Pourtant, qu'est-ce qu'il a fait en dehors de Thor ? Il n'a pas une autre saga où il joue une sorte de béret vert ou un truc dans le genre ?
Bah, il y a Tyler Rake, là, le truc qui était sorti sur Netflix.
Mais il fait un peu que des trucs militaires.
Il est un petit peu dans ce... Ou alors, il est dans des rôles complètement à contre-courant,
la
comme
comédie,
dans Ghostbusters.
Ghostbusters, ouais. Ou Men in Black, qui n'a pas marché.
Ou Men in Black, ouais.
Je ne l'ai pas vu avec les
Moi, je l'ai vu,
justement, ouais. C'était comment ?
Très oubliable.
Okay.
Ça marche entre les deux acteurs, entre Tessa Thompson et Chris Hemsworth, parce que tu sens qu'ils sont potes et qu'ils s'amusent devant la caméra, mais le film en tant que tel est pas intéressant. Enfin, moi, j'avoue, j'en ai très peu de souvenirs, alors qu'il a quoi ? Il a 2 ans, 3 ans, le film ?
C'est dans le chapeau.
C'est dans le chapeau.
Mauvais podcast. Et au box-office, ça fait beaucoup, mais il y a eu une grosse chute en deuxième semaine.
Ouais,
le bouche à oreille ne fonctionne pas du tout là pour le coup.
C'est assez rare pour un film de cette ampleur-là dans le MCU, parce que c'est une franchise qui est déjà très bien installée. J'ai vu qu'il avait passé le million aujourd'hui, je crois, ou hier en France. Donc il est sorti le 13, donc
je pense que tout le monde aime le personnage, tout le monde a aimé le film précédent, la plupart des gens...
Non, mais c'est vrai que le film précédent avait quand même un vrai renouveau sur le personnage et avait insufflé un truc qui est resté sur Infinity War Endgame et qui est très, très marqué quand même sur le personnage. Et je pense que tout le monde était quand même curieux de voir la suite. Et c'est vrai que je pense que c'est le bouche à oreille, que ce soit le bouche à oreille critique ou spectateur, hein, parce que pour une fois, c'est assez unanime.
Ouais.
Moi, je suis pas forcément d'accord avec les critiques qui sont faites, mais j'en ai à faire. Mais c'est vrai que ouais, ça. Ça a pris un joli coup dans l'aile. Et puis, je pense que les Mignons n'y sont pas pour... Ils sont pour quelque chose aussi, parce que les Mignons sont sortis au même moment, ou un petit peu avant, peut-être une semaine d'écart.
Bah moi, je suis pro-Mignon, là.
Moi, je suis pro-Thor, quand même.
Ah, je te le dis, je suis pro.
Ah, j'aime pas les Mignons.
Ne pas aimer les Mignons en 2022, c'est limite être un hipster, tu vois.
Eh ben, écoute, il faut ça.
Il faut avouer la dominion des Mignons. On passe au film ?
Passons au film.
On suit la traversée du désert de Gore, qui voit sa fille mourir, mais ne perd pas la foi. Il se retrouve nez à nez avec son dieu, qui se moque de lui et essaie de le tuer. Coup de bol, il y a une épée qui tue tous les dieux dans le coin. C'est toujours pratique. Je trouve que cette scène il y a des bonnes idées. Mais là, on est en plein Waititi, qui veut faire du deep, du profond,
du drama, ouais.
Qui veut faire du profond à ce mec qui croit encore en Dieu alors que sa fille vient de mourir, il vient de l'enterrer, etc. Avec le « Ah, on va rigoler avec des couleurs et des trucs comme ça », avec le dieu qui est...
Enfin, même les petits personnages qui sont autour, qui sont un peu loufoques.
Fait de fleurs, etc. Et tout de suite, ça clash, en fait.
Des idées très comic book, hein, pour le coup. Mais
tout de suite, il y a un truc... dès le début, tu te dis, en fait... On est affaire à un film qui a vraiment là le cul entre deux chaises.
Bah, c'est quelque chose qu'on va redire souvent, je pense.
Ça a toujours été le cas de Waititi, mais quelquefois, il est passionné. Et là, je ne ressens pas la passion, personnellement. Et c'est dès le début, j'ai fait « Ah ouais, ok, je pense que ça va être un de ces films-là où il va y avoir beaucoup d'humour, beaucoup d'humour, beaucoup d'humour. » On te balance tellement d'humour à la tête qu'au final, tu n'as plus envie de rire. C'est drôle, même quand
il y a des moments, c'est à l'excès, vraiment, vraiment à l'excès.
Et là, dès le début, c'est comme ça avec ce dieu là qui est joué par le mec de What We Do in the Shadows.
Exactement. Ouais.
Et tout de suite, il n'y a pas Il y a pas d'inquiétude, il y a pas de, il y a pas de, de tension. Tu vois,
moi, je trouve que si. Je trouve qu'il y en a une, et je vais même te contredire un peu parce que je trouve que les scènes avec Gore, j'ai l'impression que c'est les scènes où Taika Waititi il s'éclate le plus en fait. Là où il est plus en.
Il y a trois scènes.
Ouais, mais là où il est plus en pilote automatique sur tout le reste du film en fait.
Ouais.
Et tu sens que les meilleures idées, elles sont là quand il y a Gore, elles sont là quand tu parles du développement de ce personnage. Et au final, bah, c'est réduit à peau de chagrin dans le film, donc c'est hyper frustrant. Et tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas en termes d'équilibre. Dans ce film autour du personnage de Gore, quoi, parce que moi j'avoue.
Ça suit les comics en fait
bah, Gore, relativement, parce qu'à la base, Gore c'est un personnage qui vit sur une planète et du coup qui croit en un dieu, sauf qu'en fait la planète sur laquelle ils sont bah, voilà, se retrouve desséchée, ou en tout cas ils n'ont plus de quoi vivre et du coup bah, ils sont en train de dépérir et du coup bah, ils appellent les dieux, sauf que les dieux ne viennent pas. Et au final, il se retrouve, je crois, tout seul. Il se trouve même exilé parce qu'il enterre son fils. Il me semble qu'il y a quelque chose comme... Il y a un délire comme ça. Il faudrait que je le relise, le run de Jason Aaron.
Genre, les dieux, ils veulent que tu brûles ton fils et toi, tu
l'enterres. Non, vraiment pas. C'est juste que dans la culture de Gore, en fait, on n'enterre pas les
ouais,
gens.
Parce que les dieux veulent pas que...
C'est ça. Et du coup, il se retrouve banni. Mmh. Et en étant banni, il se retrouve justement voilà, dans ce désert où il erre... Sans but précis, et il se retrouve en fait nez à nez avec deux dieux qui sont en train de se foutre sur la gueule. Mmh. Et l'épée d'un des deux tombe, et il se trouve que c'est la Necrosword, et à partir de là, bah, lui va prendre son destin en main, entre guillemets, en rentrant en contact avec la Necrosword.
Ok, donc ouais, ça ressemble.
Oui, clairement.
Un peu comme Mighty Thor et Jane, ça ressemble aussi sur le papier.
Oui, c'est voilà. Clairement ça. Après, les raisons pour lesquelles.
Elle a les pouvoirs.
Elle se retrouve dans cette situation-là, sont un peu différentes, mais ça part d'un cancer, effectivement, avec cette volonté de bah, peut-être guérir via Mjolnir, et voilà quoi.
Parce que dans Ragnarok, ça ressemblait pas du tout aux comics Ragnarok.
Non, pas du tout.
Ça n'avait absolument rien à voir. Et World War Hulk, le Hulk qui tue plein de gens, là, le destroyer de tueurs de planètes, etc., ça ressemblait pas non plus.
Non, pas du tout.
Donc là, j'ai un sentiment qu'il y a un manque cruel d'imagination de la part de Waititi et qu'il a juste pris quelques trucs des comics et il a essayé de développer ça. Et en fait, plutôt que d'essayer de faire sa propre histoire, il a essayé de coller aux comics. Mmh. Et on se plaint souvent, il devrait faire plus de trucs de comics, ça, il devrait essayer. Mais enfin, c'est deux médias qui se ressemblent pas, quoi. Tu vois, c'est deux, c'est deux façons de voir, deux façons visuelles de voir. Enfin, ça n'a rien à voir, en fait. Le cinéma et la BD, ça n'a absolument rien à voir.
Bah, pas vraiment. Ouais.
Voilà. Et au final, il n'y a que l'animation qui peut vraiment rendre justice à la BD.
Tout à fait, ouais.
Tu vois, comme le dernier Spider-Man animé qui était parfait pour ça, ou le dessin animé Batman, tu vois. Ouais. Enfin, voilà, ça rend vraiment justice à la bande dessinée. Et je trouve que, en fait, il s'est enfermé dans ces deux histoires qui, en plus, n'ont rien à voir l'une avec l'autre, qu'il essaie de joindre d'une certaine manière, hein, quand même.
Bah, qui se suivent dans la temporalité des comics récents sur Thor, mais qui n'ont rien à voir en tant que tel. Oui, Gore et Jane Foster ne sont pas liés.
Et ces deux histoires qui auraient mérité d'être plus développées.
Hein. Moi, c'est mon principal grief contre le film, c'est d'adapter ces deux runs-là de Thor, qui sont deux des meilleurs runs récents, et même de l'histoire de Thor. Hein. Je pense que je peux l'avancer sans me faire crier dessus après. Mais c'est très frustrant, parce que que ça soit le run sur Gore ou que ça soit le run sur Mighty Thor, enfin sur la Thor de Jane Foster, là tu grattes la surface et t'en fais rien. Et comme tu dis, s'il avait à la limite utilisé ces personnages-là pour faire sa propre histoire, sauf que là il essaye d'adapter vraiment tel quel les deux runs de Jason Aaron, et à chaque fois ça tombe à l'eau. Et c'est vrai qu'au final Marvel est presque un peu meilleur quand ça... Ça s'écarte un peu des adaptations, parce que là, tu sens que ça pêche, quoi. Ça pêche vraiment. Hein.
Marvel est très bon quand il prend juste une idée. Par exemple, Winter Soldier. Bucky est décongelé. Mmh. Et tu fais une autre histoire autour, qui n'a rien à voir avec le Winter Soldier non plus des comics. Ils ont été de faire Hydra qui possédait S.H.I.E.L.D., etc. Ils ont été de faire un truc autour. Thanos, il fait ça pour draguer la mort dans les comics. Toute la raison d'avoir le gant et de tuer la moitié de l'espèce, ça n'a rien à voir avec réguler la population, hein, dans les comics, tu vois. Bah ça, c'est un truc qu'ils ont
non,
fait.
Non, il veut faire un cadeau.
Ils ont pris une idée de base et ils l'ont adapté à leur univers.
Ouais, c'est ça.
Alors que là, ils ont mis l'idée de base directement dans l'univers,
ouais.
En fait.
Ouais, ouais. Non, c'est ça qui est très frustrant, parce que moi, le personnage de Gore dans le film me plaît, mais il me plaît pas dans le MCU, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'en final, il est arrivé, il est reparti, et ça fait encore un personnage emblématique.
Encore un méchant.
Qui disparaît après un film, quoi.
Ouais, encore un méchant qui est juste là pour... comme Ella, quoi. Encore un épisode où Max dit qu'il vient défendre un film et au final je vais tellement l'attaquer qu'il va faire ouais t'as raison.
Non, j'ai des choses pour le défendre quand même.
Korg raconte l'histoire de Thor sur du Enya. Ça nous rappelle en gros que tout le monde est mort, dont les trois là, les trois
les acolytes de Thor.
Les acolytes de Thor. Bon, Waititi nous confirme donc qu'il en a rien à foutre d'eux. Et plus tard, il nous confirme aussi qu'il s'en fout de Lady Sif. C'est vraiment...
Bah, il s'en fout, mais il l'a réintroduit quand même dans l'univers.
Ouais, mais comme blague.
Ouais, mais elle a quand même un tout petit rôle à la fin où tu sens qu'elle est quand même... Elle a retrouvé une place. Quoi.
Ouais, voilà. Mais elle était déjà dans Loki.
Oui, mais c'était une scène
rapidement.
C'était une scène de flashback.
En tout cas, pour montrer que l'actrice était de retour dans le MCU. Quoi. Ouais. Et son frère est mort plein de fois aussi.
Mais tu vois, ça c'est une des qualités de ce film, c'est que je trouve que c'est un film du MCU qui peut se voir sans avoir vu le reste, parce qu'on t'explique tout dans le film. Tout ce que tu n'as pas suivi, si tu ne suis pas de façon assidue le MCU, tu l'as expliqué dans le film, dans les grandes lignes, et t'as ce qu'il faut pour comprendre l'histoire de A à Z dans son entièreté. Ça, c'est une qualité qui n'est pas dans tous les films Marvel.
Bon, t'as dit une qualité, donc je vais enchaîner avec un défaut. Hyper son œil, on lui donne un nouvel œil. Hyper Mjolnir.
On lui donne un nouveau marteau.
Il prend du poids.
On lui fait perdre.
Voilà. Il n'y a aucune conséquence dans l'univers Marvel.
Bah.
Non, mais là, on est vraiment. Avec Thor, on est vraiment dans le pire. On nous dit tout. Enfin, je suis le premier à le dire en plus. Allez, Thor, un vrai arc, etc. Le Thor qu'on voit là, qui se la pète comme un dieu, pendant que les Guardians y galèrent, etc. Tu vois, pendant la bataille, qui fait son grand speech. C'est exactement le même Thor qu'on a rencontré dans le premier.
C'est un peu vrai.
Il n'y a aucun arc au final. C'est exactement le même Thor. Alors que Ragnarok, alors que Endgame nous ont fait croire qu'il y avait un arc et qu'il aurait dû se terminer là, comme Cap et comme Iron Man, son arc était fini. Il pourrait très bien rester à Asgard.
Valhalla
ou un truc comme ça. Mais en tout cas, il n'y a aucune conséquence. Je me suis dit, parce qu'il avait une petite cicatrice autour de l'œil.
Oui, oui.
Et j'ai pensé, ah, c'est vrai qu'à une époque, il n'avait pas d'œil. Et on pouvait penser que, ça y est, il aurait son bandeau pendant tout le truc, son truc de pirate pendant tout le reste du MCU. Ou non, on lui donne un œil. Mjolnir est détruit. Tu fais, putain, maintenant, il n'a plus son arme. Il prouve dans Ragnarok que c'est lui l'arme. Qu'il n'a pas besoin de Mjolnir. Dans le film d'après, on nous dit, non, en fait, il a besoin d'une arme parce que, voilà, il n'est pas très très fort sans Mjolnir.
Mais ça, c'est plus une question d'ego par rapport au personnage.
Il prend du poids, on nous dit qu'il est encore digne. Donc, quelle est la raison de perdre du poids dans un montage au début du film d'après, tu vois, enfin.
Je suis d'accord avec toi sur le fond, mais par contre, sur la forme, ce que j'apprécie, c'est quand même qu'il y a des conséquences à toutes ces choses. Alors, je suis d'accord, elles sont de trop court terme. Mais c'est vrai que j'aurais aimé voir, par exemple, Thor avec un œil en moins sur un film de plus, ou dépouiller de ses armes sur un plus long terme. Mais par contre, tu vois, le fait qu'il se recrée du lore autour de lui, donc son œil, ça vient de Rocket qui avait ça dans un coin, tu vois. C'est au final ça donne de la profondeur au personnage dans sa construction quand même.
Ouais.
Mais je suis d'accord que ça manque de consistance et de long terme. Ça, je suis complètement d'accord.
Bah, disons qu'on sent qu'il y a des visions de réalisateurs différentes. Les Russo, ils décident de il serait gros, pourquoi pas, ce serait marrant. Pendant les 5 ans, il est devenu gros. Waititi, il arrive, il fait moi, j'ai pas envie qu'il soit gros.
Bah, ça, je suis pas d'accord parce que sur Infinity War and Game, je sais que James Gunn et Taika Waititi étaient quand même consultants par rapport aux personnages qu'ils développaient.
Bah, encore heureux.
Donc, c'est eux qui ont aussi choisi ces choix-là. Donc, à partir de là.
Pour moi, j'en veux plus à Waititi avec l'avenir. Exactement comme je disais, on a enregistré le dernier épisode sur Miss Marvel et je me suis plaint pendant quelques temps du fait qu'au final, le saut dans le temps des 5 ans du blip et même la disparition et la réapparition de la moitié de la population, ça a quasiment aucune conséquence sur le reste du MCU. Sur la phase 4, on s'en fout complètement. Il y a quelques petites scènes par-ci par-là, Yelena ou Monica Rambeau ou des petits personnages comme ça où on voit rapidement ce que c'est de disparaître et de réapparaître, mais on nous montre pas les conséquences sur les gens, comment les gens ont réagi pendant tout ce temps. Même dans Spider-Man, on n'en parle quasiment pas. Enfin, tu vois, c'est... je trouve qu'il y a un souci de, alors qu'à une époque on sentait que tout était connecté et que tout se suivait et tout fonctionnait, on a l'impression que là
c'est un peu plus en roue libre,
on s'en fout quoi. Un peu plus quoi.
Bah dis-toi que là dans Thor 4 il y a une seule référence au blip, et c'est par rapport à la notion du temps de Thor par rapport à Jane sur leur relation, tu vois.
Ouais, il dit qu'il y a 8 ans qui sont passés.
Et c'est pour faire une vanne, tu vois.
Ouais, il dit qu'il y a 8 ans qui sont passés, c'est ça.
Alors qu'elle dit que 3 ou 4.
Ouais. Donc Thor aide les Guardians à la dernière minute, il fait le grand écart comme Jean-Claude Van Damme, il détruit un temple. Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que Guns N' Roses est utilisé pendant presque tout le film. Axel Rose est même le nom
d'un
des personnages. Ça fonctionne avec Sweet Child of Mine, qui est la chanson utilisée dans la bande-annonce,
ouais,
puisque ça parle de thunder et d'enfants et d'amour et ce genre de trucs. Donc ça peut fonctionner. Par contre, nous mettre toute l'intégrale de Guns N' Roses pendant le film, en fait, ça fait une sorte de repompe de Ragnarok, mais Ragnarok, ça fonctionnait Immigrant Song de Led Zepp, que les paroles étaient totalement... Ça fonctionnait à fond, quoi. Ça parlait de Valhalla, ça parlait des dieux, ça parlait de tout ça.
Et puis surtout qu'il y avait vraiment une première fois dans le film où on avait cette scène avec cette... Enfin, on avait une scène avec cette musique, avec un callback à la fin du film avec cette même musique, et où là, ça prenait de l'ampleur et t'avais un vrai développement par rapport au personnage, et la musique avait une importance, alors que là, c'est vrai que c'est un peu plus artificiel, quoi.
Là, on nous refait la même. Désolé si vous entendez des bulles, les gens, mais bon, on s'en fout. Il y a des glaçons aussi, il y a des bulles, vous n'avez pas le choix. Hein. D'habitude, on fait ça de manière professionnelle, mais là, ça va, quoi. Là, on est Marvel sur la phase 4. Hein.
C'est la canicule.
Puis j'en ai un peu marre des années 80.
Ah bah là on arrive à l'essorage complet, quoi.
Ouais, on est passé aux années 90, la plupart des autres trucs sont
beaucoup,
passés.
Beaucoup, hein.
Ouais, voilà, il y a le Yellow Jacket, c'est des trucs comme ça, c'est à la mode en ce moment, tu vois.
Oui.
Alors que... Ouais, je sais pas, je crois que j'en ai un peu marre des années 80, je crois qu'on a fait le tour un peu.
Après, je trouve que cette ambiance colle bien avec ce Thor-là, mais c'est vrai qu'on est à un moment où, c'est vrai que les années 80, ça fait 10 ans maintenant à peu près, je pense qu'on se les tape dans quasiment tous les projets blockbusters avec de la nostalgie.
Bah c'est Stranger Things, non ? C'était quand ?
Bah Stranger Things, ouais, ça doit être vers 2015 ou 2014.
Je pense que c'est les premiers à avoir vraiment lancé la mode.
Ça doit être le vrai marqueur temporel, mais il y a peut-être eu un ou deux projets avant, mais c'est vrai que depuis Stranger Things, il y a vraiment une vibe qui commençait un petit peu à se tasser, justement pour donner place un peu plus aux années 90, parce qu'on avance aussi dans le temps. Mais là, oui, c'est vrai qu'on y revient bien.
On y revient tout le temps, ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'utilisation des Guardians ?
Je t'avoue que de toute façon, je m'attendais à ça. Parce que tu savais très bien qu'il a vu la fin de Endgame, on savait qu'il allait être avec eux, que c'était les Asgardiens de la galaxie et que ça allait durer pour nous rien du tout, mais pour eux ça a dû durer, je sais pas, une année ou un truc comme
encore
ça.
Encore un même truc. Thor dans le film d'avant, il est avec les Guardians. Début du film, c'est pouf, on se débarrasse des Guardians parce qu'on va pas faire un film Thor et les Guardians, ça coûterait trop cher. Alors que c'est ça qu'on veut voir en plus.
C'est vrai qu'on aimerait bien voir ça.
Ouais, Gunn et Waititi qui font un film à deux, j'en sais rien. T'imagines la branlette que ce serait.
Ah oui.
Vous allez dire quoi, excuse-moi.
Mais non, les gardiens, en ayant vu les bandes annonces, je m'attendais vraiment à ça. Ça allait être une ou deux scènes au début du film où on le voit avec, avant qu'il s'en émancipe et qu'il parte faire son aventure solo. Et au final, je pense même que j'en avais parlé dans un podcast. Et au final, c'est clairement ça, quoi.
Ouais, mais il n'y a que Chris Pratt qui parle, limite. Hein. Ils ont tous une phrase. Allez, une phrase.
Oui.
Mais sinon, il y a... comment il s'appelle le nouveau Yondu, là ? Je ne me rappelle jamais de son prénom.
Le frère de James Gunn.
Ouais, le frère de James Gunn.
J'ai son nom.
Je ne me rappelle plus du nom de son personnage. Il n'y a que lui qui a un petit truc marrant.
Kraglin.
Il ramène une fille et genre sur toutes les planètes, il se marie. Ça, tu vois, c'est marrant encore, quoi. Mais sinon, ouais, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment là pour faire de la figuration, quoi.
Oui, et puis c'est surtout qu'on sait qu'ils ont leur Holiday Special, ils ont leur film qui arrive aussi, donc tu peux pas les développer dans 20 minutes de film, quoi. C'est juste, tu les as introduits dans l'univers, donc tu peux t'en servir, mais c'est un jouet, quoi. Tu le prends 5 minutes et après tu le...
Ouais, mais tu vois, c'est vraiment... ça fait un peu cliffhanger d'épisode de série. Tu fais, oh, putain, j'ai vraiment envie de voir la suite. Et dans l'épisode d'après, c'est genre, tout est annulé au bout de 5 minutes.
C'est balayé en 5 minutes.
Ouais, voilà, tu vois.
Vraiment,
on a tous envie on aurait aimé qu'au moins un tiers du film ce soit sur Thor et les Guardians. Là, on n'a pas ça.
Qui team up une partie, quitte à ce qu'il y ait des conséquences sur les
Guardians.
Guardians
reviennent à la fin.
Ouais, par exemple.
Un truc dans le genre. Là, on a vraiment. On a Chris Pratt. Oui. Tu voulais du Chris Pratt.
Avec Chris Pratt qui fait plus intelligent que Chris Hemsworth dans ce film.
Ouais. On apprend que Jane a un cancer. C'est très vite expédié.
Ouais, alors ça, c'est un des autres problèmes du film.
On la voit pas galérer, on la voit pas perdre du vomir. C'est le genre de truc que dans tous les films. Tu sais, commencer à perdre ses cheveux.
Ouais, bien sûr. Ouais. Tu vois, ce genre développer.
Il y a aucun développement.
Développer une storyline, quoi.
Ouais, c'est juste balancé comme ça. Hé, hey, Jane, tu te rappelles de Jane? Déjà, bon. Pour avoir son retour comme ça.
On passe plus de temps à nous expliquer comment on traverse les univers avec. La théorie qu'elle explique à une personne à côté de qui elle fait la chimio, que parler vraiment de sa maladie en tant que telle ou de
en
comment.
Plus, on a tous vu Interstellar, elle refait la scène.
Elle exactement la même scène.
Elle le dit en plus.
Ouais. Il parle de. C'est pas Deep Impact ou. Non, je sais plus de quel film il
parle.
Ouais,
en tout cas, c'est. C'est dommage. Bon, il y a Darcy, ça remonte un peu le niveau.
Et sachez, mes petits amis auditeurs, que c'est le moment du film où Sofiane a eu le plus d'expression.
J'ai applaudi.
C'est quand il y a eu Darcy, il applaudit.
J'ai applaudi, c'est vrai. Non, mais je trouve un peu dommage de. On parle d'un sujet quand même assez grave. Bon, par contre, ça fait quand même trois femmes qui meurent de cancer dans le MCU. Il y a la mère de Star-Lord. Il y a la mère de Monica Rambeau.
Tout à fait.
Et il y a elle. Il y a un truc avec les femmes qui meurent de cancer dans le MCU quand même. C'est un peu.
Encore un trope.
Ouais, c'est bizarre. C'est. Voilà. Comme la copine dans le frigo. C'est quoi déjà l'expression ? Girlfriend in the fridge.
Ouais, c'est ça.
C'est à cause d'un des Green Lantern où il rentrait chez lui et il y avait sa meuf dans le frigo.
Eh oui, les comics sont problématiques aussi.
Les comics, quoi. C'est con parce que c'est un personnage humain et ça manque. Ben on aurait pu justement faire ressortir son humanité avant de la transformer en déesse, tu vois. Et au final.
Je trouve que dans la deuxième partie du film. Elle a plus ce côté émotionnel qui est mis en avant, là où dans la première partie, en 5 minutes, elle se retrouve devant le marteau. Quoi. Enfin, genre c'est
une erreur, ça aurait dû être raconté en flashback. La première fois qu'on aurait dû la voir, c'est quand elle apparaît avec le marteau.
Ouais, par exemple.
Là, on aurait tous fait « Waouh !» Sauf qu'ils l'ont montré dans la bande-annonce.
Ils ont un peu trop teasé dessus. Ils étaient obligés, de toute façon.
Voilà. Nathalie Portman dans ton film, t'es un peu obligé de l'avoir.
T'es un peu obligé, ouais.
Mais c'est dommage, ça aurait été largement mieux. De ne pas avoir ces scènes et que justement ensuite elle raconte, on peut avoir un délire Korg qui fait « Voici l'histoire de Jane Fonda ». Parce qu'il l'appelle Jane Fonda et il l'appelle Jodie Foster.
Jodie Foster.
Voilà. Ça, j'aime bien. Il y a deux, trois petites blagues
Il y a des bonnes vannes qui sont...
Vraiment pas beaucoup, hein. Sans déconner. Et pourtant, je suis un client, moi, de l'humour Marvel. Ça passe la plupart du temps sur moi.
Aussi,
je suis pas vraiment, le plus relou.
Moi, j'avoue, les chèvres m'ont eu, par exemple.
Ah, les chèvres, j'aime beaucoup.
Ouais. Les chèvres m'ont eu parce que le truc est poussé à l'excès. Donc au final, c'est ça qui rend le truc
ça
marrant.
A énervé des gens.
Oui, mais je peux comprendre.
J'ai vu beaucoup de critiques.
Ouais, moi aussi, je peux comprendre que ça énerve, mais en plus, quand t'as l'explication d'où ça vient, faut pas t'attendre non plus à un truc démentiel, quoi.
Non, mais moi, de toute façon, les animaux qui hurlent comme ça, puis les chèvres, ça a toujours été drôle, même en temps normal, tu vois, les chèvres qui hurlent, c'est marrant.
Le moment où il s'éclate la tronche sur la planète, je trouve ça très drôle, quoi, j'avoue. Mais ouais, très déçu de l'introduction du cancer de Jane, qui est quelque chose qui est, enfin, moi, pour le coup, rien que d'en parler, j'ai presque les.
Je suis sûr que dans les comics, ça doit être beaucoup plus. Doit être creusé, maigre.
Ah, bah, clairement. Ouais. Voilà, là, t'as une scène ou deux dans le film où ils essayent, une fois qu'elle comprend que Mjolnir a une.
Ouais, quand il faut qu'elle se débarrasse, qu'on se débarrasse des meufs dans le film pendant un moment et qu'ensuite ce soit Thor tout seul.
Parce que la scène où elle est en chimio avec Darcy, j'ai pas le souvenir que son visage est particulièrement.
Non, elle est normale.
Tu sens qu'elle est un peu.
Elle a une perruque.
Tu sens qu'elle est un petit peu usée par la maladie, mais c'est pas non plus au point où elle est cadavérique, quoi.
Ils auraient pu faire une blague sur le fait qu'elle a une perruque. Tout le monde sait qu'elle a une perruque. Ils auraient pu dire hey, puis à cause de ton cancer t'as une perruque super cool, tu vois. Darcy qui fait une petite blague là-dessus, moi ça m'aurait fait rire. Voilà.
Et moi le truc qui m'a un petit peu énervé aussi par rapport à Jane, c'est vraiment en 2 minutes et 27 secondes Elle est en train de faire des recherches parce qu'elle a un feeling sur il faut qu'elle reparte faire ses recherches et tout. Elle regarde les bouquins sur la mythologie nordique. Elle ouvre le bouquin et il y a tout qui est expliqué. Enfin, genre de suite, en quelques secondes, elle a.
Ça, c'est parce qu'elle dit que Mjolnir l'a appelé.
Oui, mais enfin, genre, elle ouvre le bouquin en 3 minutes, elle a fait ça et en 3 minutes, enfin, 2 minutes plus tard, elle est à New Asgard et elle est devant le marteau, quoi. Enfin, genre, c'est vraiment.
Elle est en phase 4 de cancer en plus, hein. Je peux te dire que normalement, tu te promènes pas comme ça.
Oui,
tu
fais pas des voyages jusqu'en Norvège. Surtout qu'elle est américaine, quoi. Donc,
elle va à New Asgard pour retrouver Miu Miu. Et le roi Valkyrie fait de la pub et c'est devenu une destination touristique maintenant. Il y a une blague qui a un peu énervé Internet.
Laquelle ?
Le fait qu'il y ait un magasin de glace.
Ah oui, oui.
Avec le gant de Thanos. qui dit ce serait bizarre d'avoir Hitler sur un des...
Ce qui est horrible.
Non, mais c'est vrai.
Oui, non, mais
c'est un vrai point de vue. Oui, oui. Ce serait bizarre d'avoir un magasin un truc de glace avec de la photo d'Hitler.
Là où The Boys se sert bien de la publicité dans sa série, là, tu sens que oui, c'est un peu plus...
Adolf Gendaz.
On va arrêter les blagues sur Hitler. Taika Waititi en fait déjà bien assez.
Une scène qui m'a énervé, et je sais que c'est sympa et tout, c'est la pièce de théâtre. Ça dure trop longtemps.
Moi, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que c'est un petit peu redondant.
Ça dure longtemps, on l'a déjà vu dans le premier.
C'est ça le problème, c'est qu'on...
Je vous dire, pour un film qui dure quoi, moins de 2 heures, hein, je crois, si t'enlèves...
Il fait 1h57 ou 1h58.
Ouais, si t'enlèves le générique, ouais, il est encore plus court. Ouais. Je trouve qu'il y a tellement de personnages à jongler entre... Bon, on va pas compter Korg, mais allez, on va dire qu'il y a quand même 3-4 gros personnages à jongler. Ça aurait pu sauter au montage.
Bah, plus que sauter au montage, ça aurait pu être... Parce que t'as toute une scène où justement t'as la caméra qui se balade un petit peu dans New Asgard, où tu vois un petit peu comment ça a évolué avec ce côté parc d'attractions, zone touristique, pour ramener un peu d'argent et faire vivre ce qui reste d'Asgard. Ça aurait pu être juste montré sur un mouvement de caméra où dans le fond... Tu vois Matt Damon avec Sam Neill et comment elle s'appelle
Melissa McCarthy.
Melissa McCarthy qui est le frère de Christian Swartz qui sont en train de rejouer la scène. Juste de les voir dans le fond, on aurait compris avec le costume d'Ella, avec la façon...
Ou petit plan rapide, on a une petite phrase, je te brise ton marteau.
C'est ça.
C'est juste la fin du truc ou un truc comme ça.
Et moi, c'est un des trucs qui m'énerve dans ce film. C'est que je trouve que Taika Waititi se repose vachement sur ses acquis par rapport à ce qu'il a fait dans Ragnarok, où il reprend des plans quasiment les mêmes.
Ouais, quand il saute et tout.
Et voilà, les plans où il saute. Ce running gag qui a dû beaucoup lui plaire dans le premier film, et il sait que c'est une blague qui a vachement marché, parce qu'en plus, t'as la surprise avec les caméos d'acteurs connus qui viennent rejouer des scènes du MCU. Et là, on te le refait en plus long et en plus lourd. Enfin, genre, c'est des trucs qui m'ont un peu saoulé dans le film.
Dans un film plus long... Oui, il gère très bien les différents arcs de tous les personnages. Il n'y a pas de problème.
Ça fait une petite pause, en fait.
Dans Ragnarok, il n'y a pas de problème.
Ouais, carrément.
C'était marrant. On voyait qu'il y avait Matt Damon. Là, ils remettent exactement les mêmes. Voilà. En plus, quand on voit tout ce qui a été coupé au montage, apparemment...
Oui. Bah, c'est Nathalie Portman qui en parlait dans une interview pour IndieWire, je crois.
Les dieux se font assassiner un peu partout dans l'univers. Thor et les gardiennes se séparent. Donc, on voit Lady Sif, qui a un bras en moins, maintenant.
Ça, c'est un autre truc qui m'énerve dans le film. C'est Gore. Qui tue un seul dieu dans le film, au final.
Mais le plan de Gore est à chier, je vais te le dire tout de suite.
Bah, le plan de Gore, il est pas incroyable, mais c'est aussi parce qu'il est très peu développé et que Gore, il a une scène au début, une scène au milieu, une scène à la fin, en gros.
Enfin, il manque beaucoup de trucs vis-à-vis.
Moi, j'aurais aimé voir une ou deux scènes où Gore, il va trucider du dieu et où vraiment tu sens la dangerosité du personnage. Là, tu vois, je sais même plus comment c'est présenté. Il y a un plan où ils expliquent, où on voit justement Sif et tout ça. C'est expédié en quelques secondes. On nous dit qu'il y a des dieux qui ont été pendus, des machins comme ça. Et pof, c'est terminé, quoi. Et hop, là, il déboule à New Asgard.
Et là, il y a beaucoup de scènes coupées. Hein.
Ouais, non, mais c'est sûr.
Il y a Jeff Goldblum qui devait apparaître, donc qui devait reprendre son rôle. Il y a Peter Dinklage
aussi.
Qui devait reprendre son rôle de Endgame. Il y a Lena Headey qui jouait Cersei dans Game of Thrones, qui a eu des problèmes parce qu'elle n'a pas payé ses agents à cause de ça, alors qu'elle a été coupée au montage. T'imagines, t'es coupé au montage et en plus tu te retrouves au tribunal à cause de ça.
C'est un peu dommage.
Ouais, il devait y avoir beaucoup plus de scènes et ça aurait ajouté énormément au personnage pour le rendre plus mémorable.
Ouais, et puis ça aurait...
C'est comme si t'enlevais... Je sais pas, moi, t'as Thanos, mais en même temps, tu le vois que 3 fois dans le film. Enfin, Infinity War, par exemple, si Thanos était apparu que 3 fois dans le film rapidement, comme ça...
Le film aurait pas le même impact du tout.
Voilà.
Quoi.
Ouais. Donc son plan, il y a des trucs qui ne vont pas dans son plan. Pourquoi il tue des dieux avec son épée?
Bah, en fait, il est...
Ça, non, le but, c'est d'ouvrir le truc avec le Bifrost.
Oui.
Le truc, c'est d'ouvrir... C'est d'ouvrir le portail avec le Bifrost pour aller dans l'éternité.
Ouais.
Pourquoi, à ce moment-là, ne pas tout de suite attaquer Thor?
Bah, en fait, il veut lui tendre un piège pour le surprendre, plus ou moins. C'est pour ça qu'il enlève les enfants, quoi.
Ouais, mais au final, la manière dont il obtient...
Non, je suis d'accord, hein, ça tient pas trop.
La manière dont il obtient Stormbreaker, au final, c'est il l'attrape pendant que l'autre est en train de se barrer. Donc, il aurait pu faire ça 1 milliard de fois, l'attraper et le prendre, et c'est tout. Attraper l'arme et envoyer ses démons d'ombre pour l'occuper. Enfin, il y a plein de façons différentes. Thor, il est tout le temps en train de la balancer comme un boomerang, t'as moyen de l'attraper et de te barrer. Enfin, c'est-à-dire que c'est juste qu'au final, la manière où il obtient l'arme est tellement facile.
Ah bah c'est oui, c'est vraiment...
C'est exactement la même chose que dans Ragnarok, en plus. Et là, qui les poursuit quand ils utilisent Bifrost, poursuit. Bah là, c'est exactement le même truc, sauf que là, il attrape l'arme et...
Non, c'est vrai.
Il y a des trucs qui vont pas dans le plan, ou alors c'est parce que...
Mais du coup, ouais, là, de toute façon, Thor arrive à New Asgard, Gore arrive à New Asgard, donc ça va très très vite, hein. Il y a même pas le temps de souffler, quoi.
Jane est désormais The Mighty Thor, elle a des gros bras. Parlons d'un truc, justement, on en a un petit peu parlé avant, les effets spéciaux.
Ouais.
Qui sont pas terribles. Et j'ai bien l'impression que c'est un problème sur la phase 4. Bon, il y a toujours eu dans le MCU, on va pas se mentir, on n'oubliera jamais Bruce Banner dans l'armure Hulkbuster dans Infinity War qui fait ouais.
Même Black Panther, hein, moi j'ai encore des séquelles de Black Panther.
Il y a des mauvais, ouais. Mais en tout cas, sur certains autres trucs, Thanos, les Guardians, Ragnarok, niveau des effets spéciaux, c'était quand même super bien fait, Ragnarok.
Bah oui. T'avais des tableaux presque dans certaines scènes.
Et là, apparemment, tu sais, la scène avec les Valkyries qui se battent, un des plus beaux plans du film.
Ouais, ouais.
Ça a été utilisé avec une caméra spéciale qu'ils utilisent dans la NASA ou un truc comme
ils se sont fait chier, quoi.
Et c'est comme ça qu'il a filmé les scènes dans l'ombre, dans le monde de l'ombre. Même là, c'est pas très joli, quoi.
Bah, c'est intéressant d'avoir un travail de noir et blanc sur un film Marvel. C'est un peu surprenant, même si c'était aussi utilisé dans les bandes annonces. Mais c'est vrai que le film est quand même vachement pauvre en effets spéciaux. Enfin, il y a des moments, c'est...
Imagine si c'était à la Sin City d'un coup, quand t'arrives dans le...
Oui, bah bien sûr, oui.
Un truc, en plus, rendre hommage à la BD, en plus, ça aurait été super stylé, quoi, un côté plus dessiné.
Oui, et puis Sin City, c'était tourné en pellicule, c'était encore une autre manière de faire. Là, on est sur des...
Ouais, ça date, hein, maintenant.
Oui, bah oui.
Je ne rajeunis pas.
Non.
Ouais, les effets spéciaux, j'y pense parce qu'il y a Jane avec son masque qui est en CGI, qui disparaît, elle se tourne avec le sourire et tout. Est-ce qu'ils utilisent la technologie Mandalorian? C'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Tout le monde appelle ça la technologie Mandalorian, où tu filmes avec un écran qui fait 360.
Le volume, ouais.
Ouais, voilà. Ils ont fait ça pour ce film?
Oui. Bah, d'ailleurs, Taika Waititi disait que c'était quelque chose d'assez intéressant, justement, pour revenir un petit peu à... Enfin, avoir moins de bidouillage d'effets spéciaux, et justement, ça pourrait peut-être même être une petite porte de sortie pour sortir des effets spéciaux un peu pourris du MCU, quoi.
Mais au contraire, je trouve que ce soit dans Moon Knight ou Miss Marvel dernièrement, depuis qu'ils ont introduit cette technologie qui n'est pas encore au point.
Je ne suis pas sûr que dans Miss Marvel, il y en ait.
Si, je pense.
Je ne vois pas dans quel plan il pourrait y en avoir. Moon Knight, peut-être un ou deux, mais je n'ai pas le souvenir.
Je pense que quand elle est à Karachi, j'ai l'impression qu'il y a des plans un peu comme ça. Mais après, peut-être que je... Mais en tout cas, Moon Knight, il y en a, quoi. Ça, c'est clair et net. Et on le voit, en fait. Ça se remarque. Ils n'ont pas encore perfectionné la technologie, tu vois. Et donc, là, pendant un certain temps, beaucoup, beaucoup de films d'effets spéciaux vont ressembler à de la merde. Un petit peu comme début 2000, quand il avait commencé à y avoir des films... Avant qu'il y ait Gollum, quoi, tu vois. Avant qu'il y ait Gollum, il y avait le Roi Scorpion.
Et Catwoman.
Catwoman, exactement. Daredevil, enfin, tu vois, il y avait des effets spéciaux comme ça qui... je suis désolé de dire du mal de Daredevil, je sais que ça te fait du...
Mais c'est pas grave.
Il y a le fils d'Emdal qui apparaît en tête flottante, ça aussi, les effets spéciaux. Je sais pas si c'est voulu, là,
ça
mais...
Ça pique un petit peu.
C'est très, très moche. La scène où Thor et les Guardians marchent dans les flammes, les effets spéciaux, c'est...
Ah, c'est pas joli.
Affreux, c'est... J'ai pas envie de dire la phrase, on dirait des effets spéciaux de cinématiques de PlayStation 2, parce que les cinématiques de PlayStation 2 déchiraient grave. Pour l'époque, c'était vachement bien.
C'était révolutionnaire.
Regarder des Metal Gear et des trucs comme ça, clairement. Tu rigolais pas.
Mais tu vois, il y a un truc qui me fait chier avec ce film, c'est que d'un côté, t'as des effets spéciaux éclatés au sol, vraiment. Hein, on peut le dire, il y a des scènes qui sont vraiment pas belles et où ça dégueule.
Et le montage est pas génial non plus.
Ça dégueule de fond vert et en plus, le montage est pas beau. Et de l'autre côté, il y a des idées via les effets spéciaux qui sont super intéressantes. Mais qui sont pas développés qui sont pas assez développés. Genre, la scène où Gore arrive à New Asgard, avec cette idée des ombres, il y a des super plans, mais ça dure une fraction de seconde avant qu'au final on ne voit plus rien.
Ouais, quand les sortes d'araignées sortent, il y a un effet justement dessiné là.
Ouais, carrément. Et là, tu retrouves presque des effets d'ombre et d'ancrage que t'as dans les comics, sauf que ça dure une scène, deux scènes à la limite, enfin deux plans. Et après, on ne voit plus rien parce que c'est du dégueulis de CGI avec Thor qui se fight, Mighty Thor qui utilise ce Mjolnir qui se démultiplie en plein de morceaux. Et on passe complètement à côté de cette idée autour de ces entités d'ombre qui est une super idée que moi j'avais envie de voir développer. Et au final, super frustrant quoi.
Et les scènes d'action, en fait, tu sens que Waititi est plus intéressé par rendre ses personnages cool.
Oui.
Que de faire avancer l'histoire avec...
Et de faire des combats qui se tiennent, qui ont du sens, quoi. Ouais. Genre, c'est pour l'image plus que pour la narration, quoi.
Tu vois, t'es en train de dire du mal du film.
Ah non, mais je l'ai... De toute façon, on a déjà parlé tous les deux, mais moi, il y a plein de choses qui me gênent dans ce film et que j'aime pas. Mais par contre, j'ai passé un bon moment devant le film. J'ai passé un très bon moment. Mais je suis conscient des nombreux défauts du film et ça m'empêche pas de l'apprécier. Mais je l'apprécie vachement moins qu'un Ragnarok, justement, à cause de tous ces petits défauts qui viennent parasiter l'histoire de Thor que j'aime pourtant beaucoup, quoi. Et ça se sent vraiment avec ce film. Il y a un problème de montage, il y a un problème de découpage. Puis toi, t'as été un peu moins emballé que moi, même si t'as pas détesté ta séance, mais t'as pas forcément apprécié, quoi.
Non, c'était pas... En fait, là, autant Ragnarok se re-regarde vraiment sans problème. C'est vraiment un bon film du dimanche. Tu vois, un bon film que tu as envie de te mater et de dire à tes enfants de le regarder. Et les blagues marchent à chaque fois, etc. Là, une fois que tu as entendu les blagues une fois, ça ne fonctionne pas la deuxième fois.
Moi, je t'avoue qu'à part les vannes dont on a déjà parlé, je crois pas avoir un souvenir. À part, il y a deux, trois idées avec... la relation de Thor avec Stormbreaker que je trouve un peu marrante par rapport à Mjolnir, où il y a des petites idées.
Ouais, il y a ça c'est drôle, Stormbreaker qui est jalouse.
Il y a des petites idées un peu marrantes comme ça qui fonctionnent bien par rapport au personnage de Thor et à ça, mais c'est vrai que.
Il y a une très bonne blague. La moitié de nos soldats sont morts, mais ils sont toujours morts, la moitié de nos soldats.
C'est
ça, j'ai trouvé.
Parce marrant.
Que quand tu réfléchis. Ils se sont fait buter par Ella, donc bien comme il faut. Donc la moitié déjà. Ensuite, il y a l'autre moitié. Il y a la moitié de la moitié qui s'est fait buter par Thanos. Donc c'est vrai qu'au final, il reste plus que...
Plus, après, il y a ceux qui sont encore vivants qui viennent aider dans la bataille finale d'Endgame.
Qui sont battus dans Endgame aussi. Donc.
Il y a forcément des dommages collatéraux aussi.
Elle était où, Sif, pendant Endgame?
Bah, elle était peut-être dans la glace avec son bras coincé, elle attendait.
Elle faisait 128 heures. Et en gros, ouais, c'est les seules blagues que j'ai notées. Parce que par contre, tout le reste, c'est du boudin.
Le pire étant, je pense, la scène de l'enceinte connectée.
Ouais, Valkyrie et Jane qui écoutent du Missy Elliott. Thor qui utilise Sage comme un balai de sorcière.
Ça, c'est marrant. Moi, je trouve ça marrant. Parce que c'est un plan au début du film.
Personne n'a ri.
Mais c'est pas forcément drôle, c'est juste l'idée est marrante, tu vois, genre visuellement.
Il y a eu beaucoup, beaucoup de moments où tu pouvais entendre les criquets, quoi, dans le cinéma. Ce qui est rare pour un film Marvel. T'as pas remarqué, il y en avait qu'un qui riait dans le cinéma, c'était toi.
Quel bâtard.
Non, je déconne, il y avait un mec en face, juste au rang d'avant. Lui, par contre, il rigolait à vraiment tout.
Oui.
Même les blagues qui n'étaient pas des blagues, il rigolait.
Après, chacun son humour. Hein, mais moi, j'ai bien aimé cette vanne parce qu'elle est préparée dans le fait... où Thor plante Stormbreaker dans la terre, vu que c'est fait avec du bois vivant qui est le bois de Groot, du coup le bois se développe et ça lui fait un espèce de manche après, genre comme un manche de balai de sorcière, et du coup l'idée est marrante pour un plan, mais tu vois il le réutilise jamais, c'est parce qu'il sait que ça a pas plus de sens qu'en faire juste un plan au début du film.
C'est marrant parce qu'il veut toujours iconiser ses persos dans les scènes d'action, mais le reste du temps, il les fait passer pour des cons, pas possible.
Oui,
quoi.
Oui,
et donc, ça fait qu'on ne sait pas trop comment les prendre, au sérieux ou pas. Mm-hmm. Un peu comme lui, tiens, tu vois, c'est pareil. Ouais, un peu comme Waititi, on ne sait pas s'il faut prendre ses personnages au sérieux.
De toute façon, les réalisateurs, en général, ils mettent beaucoup d'eux dans leurs films, hein, d'une manière ou d'une autre.
Jane qui cherche sa catchphrase, par exemple, c'est pas génial.
Alors, c'est pas génial, mais je trouve ça assez touchant à la fin du film, quand elle lui dit dans l'oreille, et qu'on ne le sache pas, et que ça soit leur truc à eux, tu vois. J'aime bien cette idée-là, mais c'est vrai que toutes les phrases qui se balancent pendant le film pour essayer de trouver des punchlines, il y a rien qui marche vraiment il y a rien de marquant ou de vraiment très drôle. Ça, je suis complètement d'accord.
Thor qui fait un speech censé motiver tout le monde, mais qui au final est nul. On l'a au moins 3-4 fois dans le film. Et là encore, c'est répétitif à fond. Ça fait que t'as l'impression de regarder un personnage qui n'évolue pas du tout, quoi. Il y a pas beaucoup d'évolution là. Je m'attendais quand même au quatrième film. Plus une trilogie. Plus 4 films Avengers. Ça fait 8 films avec le mec. je pouvais m'attendre un petit peu à un truc.
Bah moi, je m'attendais vraiment à un chant du guerrier, à la fin de son aventure, direction le Valhalla. Enfin, je m'attendais vraiment à quelque chose de vachement plus profond dans la quête du personnage de Thor. Et les bandes annonces le laissaient penser avec son évolution à travers les âges et tout. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les comics, notamment avec Gore, Gore se retrouve à se battre contre plusieurs Thor à différentes périodes de sa vie.
Il y a Beta Ray Bill.
Notamment, il y a aussi Beta Ray Bill.
Il a une tête de cheval.
C'est le meilleur Beta Ray Bill. Mais en vrai, là, il n'y a pas tout ça, en fait. T'as juste Thor neuneux qui redevient amoureux de la nana et donc qu'il n'avait jamais oublié, quoi.
T'as pas l'impression que ce film aurait dû être sur Jane?
Ah bah, complètement.
Et que Thor aurait dû être le ressort comique romantique.
Le sidekick, ouais.
Le sidekick, ouais, romantique. Parce qu'en fait, il n'y a rien vraiment qui tourne autour de Thor dans ce film. Le méchant est beaucoup plus connecté à Jane,
ah bah bien sûr,
qu'à Thor. Et j'ai plus l'impression que ce film aurait dû être carrément The Mighty Thor, quoi. Ça aurait dû être.
Moi, je t'avoue que j'aurais adoré avoir un film avec l'histoire reprise de Gore, avec de l'autre côté. Là, moi, c'est ce à quoi je m'attendais. Hein. Je pensais que Thor aurait un rôle vachement moins important dans le film par rapport à Jane, et que justement, elle prendrait un petit peu la place, d'une certaine manière, une espèce de passage de marteau. Mais non, on n'est pas du tout là-dedans et on est sur du Thor, une aventure de Thor cosmique, mais qui n'est pas marquante dans l'histoire du personnage comparé à ce que peut être Ragnarok en termes d'impact sur le personnage ou même ce que peut être le premier film Thor.
Bah en fait, Ragnarok aussi, ce qu'il y avait de bien, c'est qu'il y avait un vrai cast secondaire. T'avais Loki, t'avais Hulk, t'avais quand même du lourd, quoi, tu vois.
Valkyrie,
et c'est pour ça que même si Ella est décevante comme méchant, mais tu t'en fous au final.
C'était pas le personnage, elle n'était pas importante au final dans l'histoire, pas si importante que ça. Ouais.
Et là, celle qui doit. Et là, j'ai pas fait exprès. Celle qui doit remplacer Hulk et Loki, c'est Valkyrie. Mm-hmm. Et Valkyrie, on lui donne que dalle à faire pendant tout le film.
C'est une grosse frustration.
Elle ne sert à rien. Tu peux l'enlever du film, tu peux faire ce que tu veux. Elle servait plus dans le film précédent.
Bien sûr.
Alors que, enfin voilà, normalement, on est censé un petit peu développer. Elle a perdu sa copine, machin. Enfin, il y a des trucs à développer avec elle. Le fait qu'elle est alcoolique aussi, on pourrait parler de ça, quoi, tu vois, juste essayer de s'y pencher plutôt que de faire des blagues sur le fait qu'elle est alcoolique.
Surtout que Taika Waititi nous avait promis qu'elle allait trouver sa queen. Au final, il y a une ou deux vannes où tu.
Ouais, elle dit qu'elle veut se taper Natalie Portman, mais qui ne dirait pas ça.
mais c'est vrai que c'est assez frustrant par rapport au personnage de Valkyrie parce que. En plus, il y a toute une story, tout un arc de l'histoire de Thor Love and Thunder. Où ils sont censés aller chercher une arme qui est censée les aider, mais qui ne leur sert absolument à rien.
Alors, je me suis fait la même remarque, sauf qu'elle sert à donner les pouvoirs aux gamins.
Oui, non mais...
Non mais c'est pour ça. Non, ouais, parce que je me suis fait la même remarque, je l'avais notée, et quand j'ai vu cette scène où il donne les pouvoirs aux gamins...
Tu l'as revu, donc je te fais confiance.
Et en fait, je me suis posé la question parce que je me suis dit, pourquoi il a le pouvoir de donner ça Mais en fait, c'est parce qu'il a le truc de Zeus.
Il a ça dans cette scène-là, ouais.
Ouais, parce qu'il pourrait pas le faire avec Mjolnir, apparemment. Parce que c'est les pouvoirs de Zeus.
Je pense pas, ouais.
À mon avis, c'est pour ça.
Ok, donc c'est un peu justifié.
Ça sert quand même à quelque chose, même si entre nous, on aurait pu s'en passer d'avoir encore une énième arme magique.
Même si elle est cool, hein, mais c'est juste que... Enfin, oui, on peut clairement s'en passer dans l'histoire de ce film, quoi.
C'est le logo de Flash.
Oui, c'est vrai.
Mais on parle pas de Flash.
Non.
Tant qu'on sait pas où il est.
On ne sait pas qui le joue.
Tant qu'on l'a pas retrouvé. Fais gaffe, il y a Ezra Miller derrière toi. On apprend que Jane a un point commun avec Gore. En gros, leurs armes les rendent plus forts tout en les corrompant de l'intérieur.
C'est ça.
Ça se dit corrompant ?
Les corrompre.
Tout en les corrompt. Au nord, c'était les corrompre. Qu'est-ce que tu penses de ce lien entre les deux ?
Bah, moi, j'aime bien justement ce genre un peu de miroir déformant entre le vilain du film et un des héros, sauf que c'est très peu développé. Et le seul moment où c'est développé, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que je trouve que dans la deuxième, voire la dernière partie du film, Jane et Gore ont vraiment un espèce de lien qui se ressent parce que justement, t'as vraiment de l'impact émotionnel dans la conclusion de l'histoire de ces deux personnages. Et c'est là où je suis assez satisfait par rapport à comment c'est écrit par rapport à Gore, je suis un peu frustré par rapport à Jane parce qu'elle c'est pareil, elle disparaît aussi vite qu'elle est arrivée, quoi, plus ou moins. Mais en soi, moi, c'est quelque chose qui je trouve, c'est, ça fait partie des bonnes idées du film, quoi. Elles sont là, quoi.
Tu sais que je la trouve, j'ai pas l'impression que Jane Foster, au final, on en a appris beaucoup sur elle en trois films. Elle est intelligente.
Oui, bah on sait pas grand.
C'est Natalie Portman.
Ouais, c'est une scientifique, quoi.
Il y a pas vraiment. Ils essaient de lui donner un peu des blagues avec les mange mon marteau et ce genre de trucs. Mais j'ai pas non plus, enfin tu vois.
Elle a pas son petit truc à elle. Ouais,
disons que quand elle est morte, j'en avais un peu rien à foutre, quoi. Mais je pense que ça.
Moi, j'étais un peu dégoûté quand même.
Je pense personnellement que c'est de la faute des deux films précédents avec elle, si on sait rien sur elle. C'est que, bon, dans le premier film encore, moi j'ai toujours trouvé mignon un petit peu.
Ouais, moi aussi.
Comme elle le regarde avec des grands yeux d'amour. Ouais. Tu sais, elle le vend bien.
Ouais, je carrément.
Vraiment, tu te dis, cet énorme viking là. Tu sens qu'elle veut le bouffer, quoi. Oui. J'aimais bien. Par contre, dans la suite.
Et puis en plus, elle est plus ou moins possédée par un truc pendant la moitié du film, donc elle n'est pas vraiment elle-même. Ou en tout cas, elle est corrompue, elle aussi.
Et moi, je pensais justement que ça allait être à cause de ça.
Ben, je pensais aussi, mais il y a
elle
absolument...
avait à avoir son cancer.
Ouais. Je pensais aussi.
Que son cancer venait peut-être de la pierre.
Il y aurait eu une conséquence d'avoir porté les terres en elle, mais pas du tout. Non, c'est même pas évoqué une seule seconde.
C'est vrai qu'ils font même pas une référence au fait qu'elle avait une pierre de l'infini en elle.
Bah, t'as toutes les scènes plus ou moins flashback où on te parle de leur relation. Ça, c'est quelque chose qu'on avait.
Non, mais ils parlent pas de
pas eu, mais à aucun moment on nous parle du fait qu'elle a quand même eu une des pierres d'infini en elle.
Je me demande à vrai dire si Waititi a vu les deux premiers. Ce serait même pas étonnant qu'il l'ait pas vu.
Je pense qu'il les a vus, mais il en a rien à foutre.
Il les a vus une fois, je suis sûr. Tu vois, voilà, histoire de
dire. Il y a une espèce d'image mentale des deux premiers films.
C'est bon, je les ai vus, ça s'est fait.
C'est clair.
Ils vont à Omnipotent City.
Oui. Qui existe dans les comics.
Qui existe dans les comics, ok. Comme tout. Même nous, on existe dans les comics. Tu vas voir, un jour, on va se retrouver dans les comics. C'est à partir de là que le film se transforme un petit peu en rom-com.
Il y a beaucoup de rom-com dans ce film, ouais.
Un rom-com qui est mélangé avec un thème très religieux. Mm-hmm. Et tout ça, c'est que l'amour, au final, c'est ça qui est important. On s'en fout des dieux, on s'en fout de tout ça. Le plus important, c'est l'amour. Mais là encore, le cul entre deux chaises, quoi.
Ouais.
Un truc aussi important que les dieux nous ont abandonnés, on va tous mourir, il faut tous les tuer, c'est super métal comme putain d'idée, ça, normalement.
Clairement, ouais.
Et à côté de ça, t'as le côté ouais, c'est vrai qu'il y a 10 ans, on était ensemble, mais on devrait peut-être s'en mettre ensemble. Mmh. Parce que je trouve qu'avec tes grands muscles, maintenant, t'es plutôt sexy, Nathalie.
On irait bien ensemble, ouais, tous les deux.
C'est plutôt mignonne. Ça clash, surtout que l'autre, elle est en train de crever, quoi.
C'est là où je trouve que c'est quand même pas trop mal fait.
Le film est pas stressé vis-à-vis du fait qu'elle va crever.
Mais moi, je trouve que si, parce que c'est quand même une espèce d'épée de Damoclès qu'elle a au-dessus de la tête. Elle le sait. Sauf qu'à ce moment-là du film, elle ne sait pas encore que Mjolnir a un effet négatif sur elle autant que
si
ça
si, elle le sait.
À ce moment-là, elle le sait. À Omnipotent City, elle le sait
elle
déjà.
Elle le savait déjà avant même de voir Thor.
Ah ouais ?
Ouais.
Non.
Si, puisqu'elle en parle avec Valkyrie.
Parce qu'un truc dont on n'a pas parlé.
Si, elle en parle à un moment où elle sort la beatbox pour danser sur du Missy Elliott. Juste avant, elles en parlent entre elles.
Oui, c'est ça.
Parce qu'elle casse le truc.
Exact.
Ouais, donc elle était déjà au courant.
Un des trucs que j'ai trouvé intéressant, par contre, on n'en a pas encore parlé, c'est le lien de Mjolnir avec Jane par rapport à Thor. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Qu'il ait fait une promesse.
Ah, ça, c'est un des trucs qui m'a énervé le plus.
Ah non, moi, ça, pour le coup, j'ai bien aimé, tu vois. Parce que ça, pour le coup, ça crée vraiment une justification au fait que Mjolnir se réveille, entre guillemets, pour Jane.
Oui et non. Mjolnir, le truc qui est bien avec Mjolnir, c'est qu'il faut être digne. Si t'es pas digne, tu le portes pas.
Ah bah non.
Voilà, tu le soulèves pas. Autant qu'on sache, il y en a deux qui ont été dignes. Voilà. Il y a Joe Biden. Il y a Joe Biden et il y a le mec de Point Break. Je trouve... Parce que dans les comics, elle est digne, on est d'accord, dans les comics, elle est digne. Je trouve que c'est un peu dommage d'avoir cette scène, ça aurait été mieux de laisser le mystère. Mmh. D'avoir cette scène, ça fait qu'en gros, on nous dit qu'elle n'est pas digne. C'est juste Thor qui a décidé qu'elle le serait parce qu'il faut la protéger.
Ok, je vois la nuance, mais...
En gros, elle est digne parce qu'un mec a décidé qu'elle était
digne. Ouais, non, c'est pas totalement idiot vu comme ça. Qu'est-ce que t'as pensé d'Omnipotent City, toi, sinon ?
Je m'en fous. J'ai trouvé que ça pouvait être coupé au montage, mais à un point.
Et Russell Crowe ?
Non, mais tout ce délire-là, Bon, déjà, Russell Crowe, ouais, ok, il fait quatre accents différents, c'est assez marrant. Et vous savez que j'aime bien les accents. Mm. Plus il a sa petite jupette et il joue.
Sa petite bedaine aussi.
Oui, surjoue. Oui, bon, ça, on est habitué maintenant.
Il fait plus que surjouer.
On est habitué à sa, oui. sa bedaine. J'ai noté un truc, c'est qu'on se moque des dieux de toutes les cultures, sauf les dieux monothéistes.
Oui. Exactement.
Qui comptent. Qui compte.
Non, mais ceux qui touchent le plus.
Ceux qui vont. On va dire qu'on va pas choquer. On va essayer de pas choquer personne. Non, mais c'est ça qu'ils disent, quoi.
Ouais, bien sûr.
On va pas te montrer Jésus, par exemple. Il y aura pas un mec. Il y aura pas Jésus. Il y aura pas Moïse. On sent le pur message athée.
Oui.
Voilà. Il est athée, ça se sent. Tu vois, il en est même plutôt fier. C'est limite Ricky Gervais. Si.
Ouais.
Ça manque de mordant.
Ça manque un peu de mordant. Je suis d'accord. Mais c'est surtout que. Tout est tourné à la dérision dans cette scène avec les dieux, alors que je trouvais qu'il y avait vraiment un truc super...
C'est pas très drôle.
Non, c'est justement, ça fait partie des scènes qui sont les moins drôles. Mmh. En plus de ça, ils se fightent contre des gardes divins, sauf qu'ils les démontent en 2-2, sauf que c'est quand même... Enfin, les gens contre qui ils se retrouvent dans l'arène, là, quand ils commencent à se battre. Quand ils commencent à se battre dans l'arène, ils se retrouvent face à des espèces d'entités qui viennent combattre au nom des dieux. Et en un coup, ils sont tous démolis les uns après les autres. Enfin, il n'y a pas d'échelle de puissance par rapport au fait que ça soit des dieux. Donc ça, déjà, ça m'a un peu surpris, un peu déçu. Et en plus de ça, le rapport aux dieux qu'on a commencé à avoir un petit peu dans le MCU. Bon, il y a eu les films Thor qui ont tout le côté nordique. Il y a eu le côté Moon Knight qui est arrivé plus récemment. Par exemple, Moon Knight, il n'y a aucune référence aux dieux égyptiens dans le film. Il n'y a aucune référence aux dieux égyptiens. Il y a Bast qui est évoqué, mais c'est tout. Enfin, genre, par rapport à Black Panther. Mais c'est tout. Enfin, genre, ça manque...
Il parle Ra à un moment ?
Si, il parle de Ra, ouais. Mais, ouais. On ne le voit pas, quoi. Enfin, genre, c'est...
Cette scène m'a fait penser à une scène de Doctor Strange. Avec les Illuminati.
Mmh. Ouais, il y a un petit peu de ça.
Qui n'a aucun impact sur l'histoire, qui est juste là, histoire de dire... Enfin, on sait les choses un petit peu.
La scène des Illuminati a un impact... Par rapport à Charles Xavier, c'est le moment où il y a un impact sur Scarlet Witch. Mais à part ça, là, c'est vrai que...
Non, mais les deux scènes, on peut s'en débarrasser facilement. Au moins, pour la scène des Illuminati, on pouvait se marrer à se dire « Ah, regarde le cast What If ». Enfin, tu vois le côté un petit peu What If, on peut rigoler. En plus, c'est Wanda qui casse des gueules, c'est assez rare d'avoir tué des gens comme ça.
C'est appréciable.
Il y a un petit côté, au moins, c'est intéressant, on va dire. Ouais, donc ça m'a fait penser à cette scène de Doctor Strange un petit peu. C'est le milieu du film, on sait pas trop quoi faire, il faut qu'il y ait une scène. Alors on va faire tout un délire avec une autre société qui est pas du tout en rapport avec le reste du film, histoire de dire aux fans, voilà, vous avez ce que vous voulez, un petit peu d'action. Ouais. Là, les scènes de combat, elles commencent à toutes se ressembler. On en a...
La seule bonne idée, en fait, c'est juste le marteau, enfin Mjolnir qui peut se vu que ça il a été cassé, il peut se démultiplier en plein de petits morceaux.
Ouais, mais ça, on s'en fout.
Mais disons que c'est une bonne idée, mais encore une fois, c'est pas très bien mis en scène pour rendre ça intéressant. Elle l'envoie, le truc se fragmente en plein de morceaux et revient en un morceau et c'est terminé. Genre, il y a pas de, je sais pas, des petites idées qui feraient que le truc serait un petit peu impactant visuellement, par exemple. Genre, il y a même pas ça, quoi.
Korg meurt, mais en fait non. Zeus meurt, mais en fait non. Rien n'a d'importance.
Ouais, non, ça c'est
rien n'a d'importance.
C'est un vrai souci.
Là, on y est, là, mais franchement, on est dans le film qui pourrait s'appeler Thor, rien n'a d'importance.
Love est rien d'important.
C'est vrai. Mais vous savez que ça m'emmerde, moi, de dire ça.
Mais moi, je le sais.
Je suis pas. J'avais dit que j'arrêtais de faire des podcasts et tout sur Marvel, mais je continue pour votre plaisir. Mais quand même, qu'on me propose des trucs intéressants, parce que là, même les séries, franchement, j'ai limite l'impression que leurs films devraient être des séries et leurs séries devraient être des films.
Après...
Une saison sur Gore et Jane, tu vois, tu peux me faire une saison. Là, ça pourrait être intéressant, mais...
Ah, ça pourrait, ouais.
Non, il n'y a rien à faire, c'est fini. Il n'y a plus...
Mais c'est vrai que moi, j'ai été un peu déçu par cette scène avec les dieux, ne serait-ce qu'en termes d'impact dans le MCU, des dieux, quoi. Genre, c'est... Le fait que Zeus ne veuille pas intervenir parce qu'il flippe par rapport à Gore, ça, c'est plutôt pas mal justifié. Sauf que Zeus, il se fait empaler, donc tu penses qu'il est mort, sauf qu'au final, il n'est pas mort. Donc, encore une fois, ça n'a pas d'impact. Et ce qui aurait pu avoir d'impact, le fait que Zeus soit mort, du coup, peut-être que les dieux vont changer de façon de fonctionner parce que visiblement, c'est quand même Zeus, le King of the Night, qui gère tous les trucs, quoi. Et bah, au final, non, vu qu'il est pas mort et qu'il est encore présent et que c'est lui qui va continuer à faire son truc. Est-ce qu'on va le revoir? Sûrement, vu la scène post-générique, mais bon, est-ce que c'est intéressant? Bof.
Pas vraiment.
Mm-mm. Alors que pourtant, ça aurait pu être amené d'une manière vachement plus intéressante.
Ce perso aurait dû être là pendant 5 minutes.
Oui, c'est ça, pour la vanne, quoi. Et puis, ouais. T'arrêtais là. Là, on en fait vraiment
on fait
le
tout,
milieu du film et dessus, quoi.
Tout le deuxième acte autour de ça, ah ouais. Alors que ça ne sert absolument à rien. Si tu veux nous montrer les dieux, bah, tu nous montres Gore en train de tuer des dieux.
J'aurais adoré voir ces scènes-là. Hein. Je suis sûr qu'elles sont quelque part. Hein, parce que
je pense que les scènes de Gore qui tue des dieux seraient plus intéressantes que ce qu'on
Jane,
a eu avec Russell Crowe.
Nathalie Portman parle dans l'interview où il y a pas mal de scènes qui ont été coupées, de planètes entières qui avaient été créées, de civilisations. Donc j'imagine qu'on aurait eu plus d'impact par rapport au fait que bah, Gore est en train de prendre en puissance, de prendre en intensité dans son combat et en même temps dans le fait qu'il est maudit et que bah, il sait qu'il va forcément vers sa chute. Mais en même temps, il y va de manière un peu kamikaze, d'une certaine manière, et bah, même pas, quoi. Il a son petit plan machiavélique, on met ça en pause pendant 2 secondes, le temps d'aller chercher un petit artefact magique, et puis on repart à sa recherche, quoi.
Artefact magique qui, au final, utilisé une fois à peu près... Enfin, il se bat avec, mais...
Ça donne des bonnes idées visuelles après. Ça, moi, c'est un des trucs que je vais défendre, parce qu'il y a quand même...
Ouais, il crée de la couleur dans un monde en noir et blanc.
Non, mais il y a des bonnes idées visuelles, genre ça rend bien. C'est pas révolutionnaire, je te l'accorde, mais ça rend quand même ça rend les scènes un peu plus impactantes. Déjà, le travail du noir et blanc est pas vilain. Moi, je m'attendais, quand j'avais vu les bandes annonces, je me suis dit, oh là, ça va être un peu bizarre. Au final, ça rend plutôt bien parce que chacun a plus ou moins une petite couleur qui le démarque et qui fait que ça rend les scènes assez graphiques. Et ça, bon, c'est un truc qui me plaît toujours, quoi. Mais oui, c'est vrai qu'après l'éclair de Zeus, bon, on en parlait un peu tout à l'heure, hein, mais il pourrait ne pas être dans le film, ça changerait pas grand chose, quoi.
Non.
Tu pourrais totalement justifier autrement le fait qu'il arrive à distribuer son pouvoir.
Le film atteint un coup de mou dont il se remet jamais.
Ah non, moi je trouve que c'est là qu'il repart justement. Moi c'est là où je commence justement à vraiment... là où il y a les scènes marquantes pour moi, c'est maintenant. Et là où il y a plus le cœur émotionnel du film, avec Thor, avec Jane et avec Gore. Et c'est là où ça me plaît le plus, moi.
Le problème, c'est que on n'a pas le temps...
Non, on n'a pas le temps, ça je suis complètement d'accord, ça manque de développement, c'est rusher comme pas possible, mais c'est là où j'arrive à trouver les trucs moi qui me plaisent dans l'histoire par rapport aux personnages que j'apprécie, quoi.
Tu penses quoi de Christian en Gore?
Bah moi je veux en voir plus, quoi. Et puis,
ah tant pis, hein.
C'est et c'est un truc que t'as dit en sortant de la salle et que je partage complètement, c'est que ce personnage a absolument rien à foutre dans ce film là tout comme Ella était complètement en décalage avec Thor Ragnarok. Ou
non, Ella encore, ça passe.
Mais, bah, elle n'est pas en décalage avec le film, mais elle a ses scènes dans son coin.
Ouais.
Et puis après, on repasse sur l'histoire principale, et au final, elle arrive à la fin, et puis c'est plié, quoi.
Gore, on dirait qu'il vient d'un film de Snyder.
Ah bah un peu plus, oui. Ouais. C'est clair, oui. Mais moi, l'interprétation de Christian Bale, je la trouve cool.
Tu fais du Heath Ledger ou c'est moi? Quand il est avec les gamins, il parle, il fait une voix très aiguë et il change de ton. Pour moi, il
incarne un personnage flippant.
Par moment, j'ai l'impression qu'il prend des mimiques et des voix. Je me demande si c'est pas voulu de sa part justement de rendre un petit. Ah bah si je vais jouer un méchant de comics, je vais rendre hommage à mon.
Ouais,
pote.
Mais c'est pas impossible, hein. Et puis ça peut être complètement compréhensible de sa part. Par rapport au film qu'il a tourné avec ce mec-là et qui a dû forcément le marquer d'une manière ou d'une autre. Mais son interprétation en tant que telle, notamment sur la scène avec les enfants, où les enfants, on leur apprend des histoires, enfin tu sais, t'as tout ce truc sur les têtes décapitées, qui je trouve est une super vanne quand Gore arrive et leur fait « Vous voulez que je vous montre ce que c'est une tête décapitée, les enfants, allez, venez !» Tu vois, genre là, t'as un petit peu de... T'as ce petit côté un peu effrayant que Gore devrait avoir tout le film, sauf qu'il est baigné dans un univers de débiles qui n'a pas de sens par rapport à la gravité du personnage, en fait. Et tout ce, justement, ces questionnements autour des dieux, de la croyance et du fait que bah, c'est un mec qui ne croyait plus dans les dieux et qui, au final, se met à les buter parce qu'ils n'ont rien fait pour lui. Et c'est hyper fort comme histoire, quoi.
Je trouve que le montage de toute la scène de combat final sur la petite planète, là, c'est affreux.
Ah, c'est pas terrible.
On a vraiment du mal à savoir ce qui se passe beaucoup souvent.
Ouais, je suis d'accord.
Et on a du mal à savoir où on se place dans le temps et l'espace, quoi. Enfin, on est on est un peu paumé par moments, j'ai l'impression. C'est très brouillon, quoi. Très fouillis.
Bah, c'est ce que je disais en sortant de la salle, c'est que je trouve que les idées visuellement sont trop cool, mais c'est pas développé. Donc, t'étais juste frustré, en fait, d'avoir un spectacle qui pourrait être grandiose, et on t'en fait un truc, vu que les effets spéciaux sont rushés, et que tu sens qu'ils ont pas, mis le temps nécessaire pour un film de cette ampleur-là. Ils ont rushé la production, donc, comme ils font sur toute leur production maintenant. Donc, c'est juste de la frustration pour moi, ce film, quoi. Plus que de l'énervement ou juste le fait de ne pas avoir aimé, quoi. C'est très frustrant.
Gore arrive à piquer Stormbreaker d'une manière plutôt ridicule. C'est-à-dire qu'il l'attrape, tout simplement.
Il l'attrape.
Valkyrie se fait blesser par Gore et Jane est trop faible, donc on se débarrasse des gonzesses, histoire de laisser le tapis rouge à Thor.
Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est lui le personnage principal du film.
Et on décide d'ajouter tous ces personnages d'enfants, comme ça, un peu dernière minute, alors qu'on ne les a pas développés du tout pendant tout le film.
Je trouve que l'idée est bonne.
Ouais, moi ça me fait penser à Shazam.
Oui, oui, tu m'as fait la réflexion que c'était mieux fait dans Shazam. Mais là, disons que t'as plusieurs moments dans le film où Thor via le Bifrost a accès à Axel. Donc le fils d'Endal, hein, qui sort de nulle part lui aussi pour le coup,
qui est là.
C'est encore une fois un truc qui m'a vachement surpris, c'est on te le présente, on te dit c'est le fils d'Endal et point barre, genre
bah,
ça s'arrête là.
Il avait peut-être une famille, hein, je veux dire.
Non, mais bien sûr, mais tu vois.
Il avait ce côté très solitaire comme mec.
C'est ça, quand tu le voyais dans Ragnarok, t'avais l'impression que c'était un petit peu le Moïse qui guide son peuple vers la terre promise, sauf que t'avais vraiment l'impression que c'était presque un loup solitaire avec sa capuche sur la tête.
Ouais, c'est vrai que je l'imagine pas forcément avoir une femme et des gosses.
Et là, il a un enfant qui a quoi
10 ans.
Ouais, voilà, c'est ça. Qui est fan de Guns N' Roses en plus, genre, enfin. J'ai du mal à voir.
Il veut pas du prénom que son père lui a donné.
Ouais, j'ai du mal à voir le fils d'Endal, fan de Guns N' Roses, en mode rébellion complet. Enfin, il y a un truc qui fonctionne pas par rapport à la carrure du personnage d'Endal. Mais toutes ces scènes avec les enfants, non, moi je trouve qu'il y a quand même un truc assez cool où quand Thor va les voir, il essaye de les rassurer. Eux, ils sont quand même dans une espèce de cage qui est quand même assez effrayante, un peu chelou. Et de l'autre côté, t'as Gore qui vient les voir après, qui essaye de les effrayer. Enfin, il y a vraiment un truc qui fait que dans le final, je trouve que ça passe plutôt bien que les enfants soient présents. Et qu'ils aient cette importance-là.
C'est très Waititi, de toute façon.
C'est très Waititi, ça, c'est clair et net.
Ouais. Les gamins, c'est souvent un des thèmes de ces films. Quoi.
Le côté âme d'enfant, en tout cas.
C'est le thème dans deux, trois de ces films, hein, là, je pense, les gamins. Mais même les gamins en général, pas juste l'âme d'enfant.
Ah
quoi,
oui, non, les enfants, oui.
Les enfants, quoi. Même la gamine déguisée en fée qui coupe un mec en deux et tout. Enfin, tu te dis... Marvel se fait laisse certaines choses passer au niveau du gore de nos jours, j'ai l'impression.
Bah, ils se lâchent un peu plus sur certains trucs.
Sur certains trucs. Enfin, disons qu'ils vont pousser la limite de la censure, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ouais, moi j'ai trouvé que tout ce qui tournait autour des enfants, c'était peut-être le pire truc du film parce que on se concentre sur deux gros thèmes et on va t'en ajouter. Tu proposes pas un nouveau thème dans le troisième acte.
Ça c'est vrai. Mais pour moi, il est là depuis le début, en fait, parce qu'on suit les enfants d'une certaine manière. Et c'est aussi le but, c'est d'aller les chercher quand même.
Oui, bien sûr.
Même si on sait que c'est un piège. Hein,
Oui, bien sûr, mais en même temps, je sais pas. Tu sais pourquoi ils se battent C'est pour sauver des dieux qui n'en auront rien à branler.
Oui, ça je suis complètement d'accord.
Jane donne sa vie à la fin du film pour une bande de branleurs qui n'en auront rien à faire et qui font des orgies dans un temple.
Pour les garder l'ordre établi qui est un truc un peu pourri, alors que Gore, au final, dans sa démarche...
Bon, ça sauve Thor, au final, ça, aussi. Voilà.
Ça sauve Thor. Mais disons que dans sa démarche de base, Gore, il essaye de faire bouger les lignes d'un système établi qui est quand même assez pourri. Enfin, c'est quand même assez...
Il est plus proche d'un Killmonger.
Clairement.
Mais c'est pas poussé, quoi.
Bah non, pas trop, non.
Killmonger, lui, il en a des grosses scènes importantes dans le film.
Oui, il est marquant, surtout.
Il est presque autant là que Black Panther dans le film.
Ah, je pense que c'est au moins du 50-50, ou du 60-40 pour Black Panther, mais ça se joue à ça. Là, on est sur du 80-20.
Magneto, pareil, quoi. Quand il est là. Quoi.
Tout à fait.
Alors que Gore, faudrait regarder combien de temps il apparaît dans le film, mais c'est pas grand-chose. Hein.
Ah, je pense qu'il y a
sachant que la moitié, il se bat avec son épée.
Il doit y avoir 25 minutes de film, je pense, à peu près.
Gore rejoint Eternité, qui ressemble bien au perso des comics.
Ah, c'est assez impressionnant. Je ne m'attendais pas à ce design-là. Et pour le coup, là, c'est une bonne idée visuelle qui marche super bien parce qu'on n'en fait pas trop. Et on te garde un espèce de mystère autour de ce personnage-là qui est omnipotent et qui est très, très dur à assimiler. Si tu essayes de le développer, il faut juste le garder comme une espèce d'entité un peu floue, un peu dans le vague. Et là, c'est ce qu'ils font. Et cette scène à la fin où t'as Gore sur une espèce de sol de flotte avec la silhouette d'Eternity, ça marche super bien. Enfin, genre, j'étais très content de ça, ouais.
C'est sympa de voir le design de Kirby à l'écran.
Bah, pour le coup, ça c'est un truc qu'on peut c'est pas reprocher Kirby. À Taika Waititi, mais même dans Ragnarok, c'était très Kirby-esque dans l'idée, dans les couleurs, dans les designs, dans les costumes. T'avais vraiment cette vibe-là. Et là, on la retrouve un petit peu plus que dans tout le reste du film, où c'est quand même plus du Marvel classique cosmique, quoi.
C'est intéressant, mine de rien, que Ragnarok est plus ou moins connu comme le film le plus coloré de... du MCU, et la réponse de Taika Waititi, ça a été d'enlever la couleur pendant au moins une moitié du film. Merci Taika, petit troll. Va. Thor décide de ressusciter la fille de Gore plutôt que de sauver Jane, qui se sacrifie pour sauver des dieux qui sont tous des connards. Elle va à Valhalla avec Heimdall. Est-ce que tu penses que Loki y est aussi ?
Techniquement, oui.
Ou il est avec Mephisto?
Non, mais il est pas.
Ou c'est lui, Mephisto?
Est-ce qu'on peut dire que Loki est mort au combat? Pas vraiment. C'est pas vraiment un combat.
Ouais, mais ça, ils disent mort au combat.
Ouais, mais ça, c'est quand même dans la mythologie nordique, c'est quand même bien présent, quoi. Si,
ouais,
si tu te fais pas trucider en plein champ de bataille, même à Sif, ils lui font la réflexion.
Techniquement,
genre...
il est mort pendant une bataille. Hein. Ils sont arrivés, il y a des ennemis qui sont arrivés, qui ont tué des Asgardiens. Je pense qu'il est mort en bataille, ouais.
Oui, en plus, il essaye de le poignarder, il se fait arrêter.
Voilà,
oui, non, il y a quand même un combat. Ouais. Donc oui, logiquement...
Jane ne meurt pas en bataille.
Bah si.
Non, elle meurt de cause naturelle. Elle meurt de son cancer.
Ouais, mais elle est sur le champ de bataille quand elle meurt.
Ouais, mais c'est à cause de son cancer. Est-ce que c'est la balle, le flingue ou le mec qui tire qui tue quelqu'un?
Les trois.
Donc ce petit personnage qui s'appelle Love, et qui est la fille de Chris Hemsworth.
Tout à fait.
Elle lui ressemble pas du tout.
Non, pas du tout. C'est assez marrant.
Genre brune, grands yeux.
D'ailleurs, il y a un autre caméo de la famille de. Enfin, il y a beaucoup de caméos de la famille de Chris Hemsworth dans ce film. Mais tu sais la scène où on voit Thor en train d'embrasser une femme Love.
Ouais.
C'est sa vraie femme.
Ouais, c'est l'ex de Michael Youn. Ouais.
Ah oui.
Tu savais pas?
Non, pas du tout.
Mais si. La femme de Chris Hemsworth, c'est l'ex de Michael Youn.
Ok. Ouais. Ça c'est pour faire des liens de degrés.
Je te jure.
Et t'as aussi quand tu vois. Thor courir petit, ça c'est un autre, c'est le fils de Chris Hemsworth aussi. T'as les enfants.
Tous les gamins sont.
Les enfants sont les enfants de Natalie Portman aussi.
Christian Bale aussi, je crois.
Il y a plein d'enfants qui sont.
Ils ont tous le même âge, ça tombait bien.
Ouais.
Donc ouais, Thor devient papa. Un truc qui sera sûrement annulé dans le prochain film, hein. On est d'accord.
Arrête, non.
Au bout de 5-10 minutes, ils vont tuer la gamine ou un truc comme ça.
Non, pitié, parce que là, pour le coup, Love, ça peut être intéressant de l'avoir un petit peu plus, quoi.
Bah là, on en est, je parlais justement des thèmes ajoutés en fin de film, bah là, on est dans le plus gros... C'est censé être Love and Thunder, c'est censé être...
Ça s'appelle Love.
C'est censé être le thème du film. Et je trouve que le personnage, bah justement, on ne sait pas son nom jusqu'à la toute fin du film. On l'a vu que pendant 2 minutes en début de film, et elle dit rien, elle meurt. Et donc, c'est un personnage,
là,
c'est une page blanche.
Tu sens qu'il manque des scènes.
C'est une page blanche totale, ce personnage. Et t'es censé être là, genre à la fin du film, te dire... Ah, c'est cool, il est avec sa fille et tout. Mais c'est qui elle?
Mais il manque 10 minutes au début du film où tu vois Gore dans son environnement normal en échangeant avec sa fille qui est en train de grandir. Enfin, tu sais, des scènes classiques en fait que t'aurais dans n'importe quel film Marvel, là tu les as pas.
Il y a une scène où Korg il dit Thor fera un bon papa. Et on est censé croire juste avec cette phrase là. Que ça va être le grand thème du film, c'est devenir papa, quoi.
Non, moi, ce que j'arrive à comprendre, c'est le fait que vu que Jane se sacrifie par amour, le fait que la fille s'appelle Love et que du coup elle représente aussi la dernière part d'amour qui restait en Gore, en gros, bah, les deux sont matérialisés dans cette petite fille qui au final va devenir la petite protégée de Thor, et au final elle est digne du marteau direct. Donc
et elle va mourir dans le Avengers 5 au début. Au bout de 2 minutes.
Deuxième scène,
ouais, sûrement tuée par Nick Fury, qui était en fait un Skrull. Die, motherfucker! Là, j'ai trouvé ça dommage, hein, parce que je pense que développer et tout, voir Thor papa, ça aurait été sympa, tu vois. C'est comme on avait vu Tony Stark papa, tu vois. Enfin, c'est toujours mignon, ce genre de petites
scènes.
Ouais,
bien sûr.
On a 2 petites scènes post-credits qui servent pas à grand-chose. Il y en a une où il y a donc Zeus qui parle à Hercule, qui est incarné par le mec de Ted Lasso.
Oui.
Et et Nathalie qui
du coup va au paradis. C'est surtout que Zeus dit à Hercule d'aller tuer Thor, donc logiquement tu vas avoir un affrontement Hercule contre Thor.
Hercule, c'est pas un Avenger?
Il fait partie des Avengers, oui, il doit faire partie des Avengers, oui, à certains moments, oui, c'est clair et net.
Mais lui, c'est un gros bof, non, dans les comics?
Ah, c'est bas du front et ça avance dans le tas, quoi. Ouais, c'est un peu du Hulk.
C'est un mélange de Hulk et Thor, en fait.
Ouais, un petit peu, ouais. Voilà. Mais version dieu grec, quoi.
Ouais, ça, je m'en fous complètement.
Bah, le personnage a des arcs assez sympas dans les comics, mais là, si c'est juste pour nous faire un affrontement...
L'état des scènes post-credits Marvel...
Ouais, là, je suis d'accord. Dans les comics, Hercule a des arcs plutôt sympas et des vrais trucs impactants pour l'univers l'univers Marvel, mais là, j'avoue qu'une simple confrontation avec Thor parce qu'il a planté un truc dans Zeus et que Zeus, au final, n'est même pas mort et donc ça lui a pas fait grand-chose. Enfin, ça a très peu de justification qui vaille le coup pour Hercule qui a rien à voir là-dedans, si ce n'est que son père a pris un petit coup dans le torse, sachant que c'est un dieu. Donc bon, au final, c'est pas censé non plus... Enfin, il a l'air d'aller bien, quoi. Il a l'air blessé, mais il n'est pas mort, quoi. Donc ça va.
Ouais.
Et la deuxième scène qui est... sympa parce qu'on revoit Idris Elba, mais c'est tout, quoi. Enfin, genre, à moins qu'on nous développe un peu le Valhalla à l'avenir, mais je pense pas qu'on puisse faire grand chose avec le Valhalla, si ce n'est faire une petite scène un peu marrante où tu vois plusieurs personnages morts qui discutent ensemble, mais enfin voilà, quoi, c'est tout.
Là, ça va être le boulot de Ryan Coogler de prouver que tu peux faire un deuxième film dans le MCU sans te ramasser.
Tout à fait.
Bon, les Russos l'ont prouvé, on va pas se mentir. Mais les Russos, c'est à part.
Ouais, ils sont sur un autre modèle.
Les Russos, c'est une sorte de prolongation de Kevin Feige.
Oui, c'est ses mains, en fait.
Ouais, voilà, c'est les mains de Kevin
Feige. La main gauche, la main droite.
Exactement. Mais tu vois, par exemple, Whedon, il s'est ramassé.
Ah, bah, il s'est loupé.
Gunn, moi, personnellement, je trouve, quand tu compares la limite, la perfection peut être Guardians par moment, et que tu compares aux deux qui a tendance à se mordre un peu la queue et à se perdre un peu dans son propre délire.
Le 2 a un vrai truc à raconter, mais c'est clair qu'il est pas, pour moi, il n'est pas au niveau du premier dans ce que proposait le premier. Mais il y a deux propositions très différentes, du coup, c'est un peu différent. Et puis James Gunn a quand même une autre stature maintenant, mais je suis assez d'accord que le deuxième film, si tu le compares au premier par rapport à l'impact qu'a eu le premier dans la pop culture, il s'est loupé, entre guillemets, par rapport à l'impact que le film a eu. Pourtant, je trouve le deuxième film plus touchant que le premier, par exemple.
Enfin, pour moi, Gunn a fait bien mieux avec Peacemaker, par exemple.
Ah bah, 100 fois, oui.
Ou avec Suicide Squad. Mmh.
C'est des meilleurs films.
Volume 2, quoi.
Oui, ouais. Ça, je suis d'accord. Ouais. Mmh.
Donc, Coogler, bon courage.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait deux projets? Favreau,
il
en a fait qu'un.
Non, il en a fait deux, il s'est ramassé aussi.
Oui, bah oui, c'est ramassé.
Il y a Favreau aussi, il y a Favreau aussi.
Et John Watts, lui, on n'en parle pas, il en a fait trois. Les trois, ils sont pas bons. Enfin, ils sont pas bons.
Ouais, mais Watts, c'est Sony pour moi, c'est pas.
Oui, c'est vrai qu'il y a encore une.
Ouais, c'est encore autre chose.
Différence.
C'est plus le réel que Sony a choisi, je pense.
Bah, la preuve, c'est que pour les 4 Fantastiques, il s'est fait têche rapidement quand même.
Qu'est-ce que t'as pensé de Thor Love and Thunder?
Il y a Peyton Reed qui va faire un deuxième film.
Qui en a déjà fait deux.
Il a fait les deux Ant-Man?
Bah oui.
Et donc il en va en faire
donc
trois.
Il s'est ramassé sur le deuxième, lui aussi. Mm. Parce que le premier, encore, ça se regarde.
Le premier est un film
il est
sympathique.
Pas mauvais, mais...
Non, c'est une bonne comédie familiale, oui, clairement. Comédie d'action.
Alors que le deux, j'ai aucune envie de le revoir.
Ah bah, moi, j'en ai aucun souvenir.
Ouais. Il y a Morpheus.
Il y a Morpheus. C'est tout.
Donc, qu'est-ce que t'as pensé de Thor 4, le quatrième Thor?
Eh bah, j'ai le cul entre deux chaises, mon petit Sofiane.
Toi aussi.
Non, je suis très déçu par rapport à l'adaptation de Gore et de Mighty Thor. Je trouve qu'il y a des choses cool dans le film. Je trouve que le film a quand même une vibe un peu, ce que je te disais en sortant de la salle, un peu roller coaster, où le film s'arrête très peu et dans tous les cas, il va du point A au point B en passant par le point C sans vraiment faire de pause. Et du coup, il y a un espèce de côté montagne russe où t'as des hauts et des bas et ça repart et ça s'arrête jamais. Je trouve qu'il y a quand même un cœur émotionnel dans le film qui marche par moment. Je pense avoir quand même mis pas mal de défauts en avant dans ce film-là, mais je suis quand même déçu. Je suis quand même déçu et frustré par rapport à ce que j'attendais et de ce que je pensais qu'il pouvait proposer avec ce personnage, avec le personnage de Thor, hein, parce que les autres, on n'en parlera pas, parce qu'au final, soit ils sont morts, soit ils sont blessés, on les verra plus. Enfin, tu vois, genre, il y a plein de choses qui vont pas, quoi, mais... Par rapport au développement et à la suite du personnage de Thor, qui est quand même le premier personnage à avoir son quatrième film, donc qui est le personnage qui a le plus de longévité dans la MCU en termes de enfin de films, quoi. Beaucoup de déceptions, parce qu'au final, ça c'est ce que t'as dit pas mal de fois, c'est qu'il y a très peu de conséquences. Et du coup, bah, ça en fait pas un film marquant. Ça en fait un film divertissant, mais c'est tout.
Et encore.
Moi, je le trouve divertissant. En tout cas, pour l'avoir, je l'ai vu qu'une fois au cinéma, donc il y avait aussi la surprise de la découverte. Peut-être qu'au revisionnage, je serais très déçu, mais là, pour le moment, le souvenir que j'ai encore de ma séance me fait dire que le film est un bon moment, mais c'est pas un film marquant du MCU, et c'est une grosse déception par rapport à l'attente, et une grosse frustration surtout, plus qu'une déception, par rapport aux attentes que j'avais sur ce qu'il pouvait produire avec, avec cette histoire-là, quoi. Et ouais, voilà.
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
Voilà, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.
C'est vraiment un gros tas de merde.
Non, quand même pas.
Non, j'utilise les sons de la saga dans Marvel Initiative, c'est pas bien. Non, ça va, oui, il y a pire. Oui, c'est pas... Est-ce que... franchement, sans déconner, je le mets au même niveau que The Dark World.
Non. Revois The Dark World, tu verras que c'est vraiment catastrophique. Hein.
Ouais, mais c'est deux manières différentes d'être catastrophique.
Bah, je préfère le catastrophique cosmique que le catastrophique médiéval fantastique, quoi.
Absolument tout ce qu'entreprend ce film, il se rate.
Non, ça, je suis pas d'accord non plus.
Je trouve que...
Vas-y.
Enfin, on est vraiment là en train de vivre le Marvel en pilote automatique qui n'en a plus rien à faire vraiment, qui remplit juste le contrat.
Et son compte en banque.
Et je pense pas que Waititi ait mis son cœur dans ce film.
Non, mais ça se voit dans l'interview qu'il fait avec Tessa Thompson, où tu vois bien qu'il se marre du fait d'avoir pris des plans dans le film qui sont des plans qui auraient dû être... Enfin, qui sont pas les bons, en fait, parce qu'il y a des problèmes de raccord, d'éclairage. Enfin, tu sens que oui, c'est... Il n'est pas aussi impliqué que sur Ragnarok, quoi. Ça
lui permet de faire ses petits projets à lui, après, tu vois.
Ah bah oui, bah lui, son objectif, c'est de faire un film Star Wars, hein. Il l'a bien fait comprendre maintenant. Donc
ouais, mais s'il continue comme ça, il va vite comprendre, comme les créateurs de Game of Thrones, comme John Watts, comme tous ces mecs-là, comme Trevorrow.
On verra jamais le jour de ces films.
Trevorrow, voilà. Faudra qu'il fasse gaffe. Non, c'est pas un gros tas de merde, comme je disais.
Non,
c'est
non.
Pour rigoler que je dis ça, mais on est quand même dans... On est quand même dans le bas du bas, là, pour moi. Parce que c'est un film qui...
pour moi, c'est...
Avec un tel budget, avec un tel cast, avec un tel...
C'est là où c'est très frustrant. Ouais,
The Dark World, autant on s'en foutait, quoi, tu vois. Tu te dis, bon, c'est pas grave, c'est un mauvais film. Mais là, c'est du gâchis, à un point...
C'est du gâchis, ça, c'est clair et net. Surtout par rapport aux comics que ça adapte, quoi. Parce que tu pouvais le modifier et en faire un truc vraiment génial. Ou justement, tu pouvais te prendre la tête et faire un truc vraiment... à la fois avec de l'ampleur et du drama, tout en gardant l'esprit de Thor comme Taika Waititi l'a insufflé dans Ragnarok. Et là, t'as un produit bizarre qui est pas fini, qui est mal monté, qui est étrange. Même la musique de Giacchino, elle est même pas marquante, quoi.
J'ai oublié qu'il y avait de la musique.
Bah ouais, non mais c'est ça, tu vois.
C'est
genre...
Giacchino qui a fait la musique.
Oui, bien sûr.
Ils ont pas repris le gars de Divo du premier. J'aimais beaucoup la BO de Ragnarok.
Hein, trop bien. Mais après, c'était Giacchino qui faisait le reste de la musique, je crois, sur Ragnarok, okay. Non,
je crois pas.
Hein. Ah, ok. Non. À vérifier, mais...
Putain, mais c'est pas possible. Il fait combien de soundtracks par an, lui ?
Impressionnant, ouais. Bah déjà, il fait quasiment un film Marvel sur deux, maintenant.
Ouais, donc au final, il fait plus rien, quoi. Enfin, quand tu fais trop comme ça, tu fais plus de la qualité.
Bah, tu te perds un petit peu.
C'est dommage.
Ouais.
Ouais.
Bah, il y avait une vraie...
Doctor Strange, c'était lui. Spider-Man, c'était lui.
Les musiques de Strange sont cool, mais elles sont pas très marquantes.
Ça, mais là, ça fait quand même les trois gros films Marvel dernièrement, c'est lui. C'est trop...
Après, moi, le thème de Spidey, je le défendrai jusqu'à la mort. Hein, le thème du MCU.
Comme quand t'as Hans Zimmer qui faisait. Allez, une époque, rappelle-toi, c'était Hans Zimmer qui faisait tout.
Ah, il faisait tout, ouais.
Il y a toujours le compositeur à la mode. Je propose un truc avant de se quitter. On vient juste de passer la moitié de la phase 4. On vient un peu plus de la moitié de la phase 4.
Ah ouais, vraiment, là, en termes de
un
production.
Un film de plus, ouais.
Ok.
Donc, il y a eu, au niveau des films, hein, parce qu'on va pas parler séries, donc
ouais.
Pour moi, c'est pas la même chose. Il y a eu Black Widow.
Ouais.
Il y a eu Shang-Chi, Eternals, Spider-Man 3, l'autre Spider-Man 3, Doctor Strange 2, et maintenant Thor 4. Est-ce que tu dirais comme moi que c'est la pire phase pour l'instant ?
Bah, c'est la pire phase dans le sens où on ne sait pas où on va, quoi.
Il n'y a pas de fil conducteur.
Il n'y a pas de fil conducteur et du coup, tu es un peu paumé par rapport à ce qu'on essaye... Enfin, on ne sait pas vers où on nous emmène, donc... C'est comme si on te dit, je t'emmène en road trip, mais tu sais pas où tu vas, donc...
Moi, je pensais que ça allait être Kang, que ça allait être le multivers, vraiment,
bah,
le
lien. Je suis bien d'accord.
Que tout ce qu'on voyait dans Loki, ça allait avoir des répercussions sur les autres films, tout ça.
Mais on était un peu enjoué au début de la phase 4.
Moi, à la fin de Loki, j'étais sûr que ça y est, ça allait, les dominos allaient tomber, qu'on allait enfin apprendre des trucs.
On allait avoir des vraies répercussions.
Que dalle.
Bah là, c'est, ouais, c'est un peu...
On a des stand-alone, c'est pas forcément plus mal, parfois, d'avoir des films qui se tiennent en eux-mêmes et qui n'ont pas besoin d'être dans le relié à l'univers. C'est très bien de temps en temps d'avoir ça. Mais c'est vrai que quand tu réfléchis, là, ça fait de tous les films, le seul film un peu crossover, c'est Spider-Man. Black Widow, c'est à part. Shang-Chi, c'est à part. Eternals, c'est à part. Doctor Strange, c'est à part. Et Thor 4, c'est à part.
Bah, Shang-Chi fait un petit peu du crossover quand même.
Ouais.
Vite fait.
Ouais, mais je veux dire, tu sais, gros crossover, tu sais, un petit peu comme Tony Stark qui apparaît dans un autre film.
Bah, t'as Doctor Strange 2 et Spidey. C'est tout.
Ouais, voilà, les deux qui parlent du multivers.
Ah ouais.
Je trouve que, enfin, on en est là. À Black Widow, j'ai oublié à peu près tout ce qui se passait dedans.
Bon, il y a pas grand. Enfin, moi aussi, moi.
Shang-Chi, j'ai un plutôt bon souvenir, mais j'ai quand même oublié facile 70% de ce qu'il y a dedans. Eternals, j'ai oublié absolument tout de ce qu'il y a dedans.
Moi, j'ai envie de revoir ce film.
Je me rappelle de Kingo. Spider-Man 3, je m'en souviens, mais c'est tellement... On en a bouffé des réactions des gens,
non,
et les
bon.
Captures, et les vidéos, et les trucs. On connaît déjà... Tu t'avais vu 5 minutes du film, tu connaissais déjà le film par cœur.
Très triste, ouais.
Voilà. Doctor Strange 2, dans à peu près 3-4 mois, tu peux être sûr que j'aurais oublié tout ce qui s'est passé dedans.
Non.
Si, tu vas voir. Thor 4, j'ai dû le revoir une deuxième fois parce que j'avais oublié la première. Voilà, je place juste ça là.
Après, pour défendre un petit peu...
Le DCEU... est mieux parti.
Bah là, actuellement, oui, mais attends, tu te souviens de la bande-annonce qu'on a vue au cinéma?
Ouais, Black Adam. Ouais, mais bon, ça, c'est les films seconde zone, ça.
Bah oui, enfin, n'empêche que t'as l'acteur le mieux payé d'Hollywood dans le film, dans le premier rôle, t'as un mec qui a joué James Bond, enfin, genre, tu sais, t'as quand
ouais,
même...
Ouais, mais...
Ah bah oui, mais bon... Un peu has-been, mais quand même. Et pour défendre un petit peu la phase 4, après... toute l'ampleur qu'a eu la phase 1, 2, 3 dans le sens où bah, c'était l'Infinity Saga, il y a besoin aussi peut-être d'une phase de transition et de reconstruction de l'univers. Alors je suis d'accord que pour le moment c'est pas très emballant, mais je pense que c'est nécessaire aussi pour reposer des pierres, pour justement reproposer quelque chose avec une ampleur telle qu'on l'a eu sur la phase 3 en tout cas, qui était un petit peu le pinacle de tout ce qui avait été mis en place. Et je pense que là, il faudra peut-être attendre la fin de la phase 6. Ça fait un peu peur de dire un truc comme ça, mais pour avoir vraiment de l'impact et de l'ampleur sur les événements qu'on a vus à droite, à gauche. Parce que tu sais très bien qu'il y a un film où on aura Shang-Chi qui sera en train de discuter avec Kingo, et derrière, t'auras la nouvelle Black Widow qui sera en train de parler avec Moon Knight.
Mais on s'en foutra parce que leurs films sont pas bons.
Ouais, non, mais les films de la phase 1 et 2 n'étaient pas forcément tous bons non plus.
Il y avait de la qualité quand même.
Il y avait de la qualité, mais il y avait des
films. Le premier Cap, il est super bien. Avengers.
Mais là, en fait, vu qu'il n'y a pas de fil conducteur, on est un peu paumé et c'est clair que c'est pas très emballant, et c'est sûr et certain.
Le premier Thor, avec le recul, il n'est pas si dégueu que ça.
Mais tu vois, moi, j'ai envie de voir.
Iron Man, ça reste encore un très bon film.
Le premier, ouais. J'ai envie de voir ce que va donner Spidey dans l'avenir avec la promesse qu'ils nous ont laissée. Est-ce que ça va être sans répercussion? Est-ce qu'il va vraiment y en avoir? Tu vois, c'est des inquiétudes, mais c'est aussi une espèce d'attente et d'impatience, quoi. Donc, faudra voir. Et je pense qu'il faut être encore un peu patient, mais oui, c'est vrai qu'on est à la moitié de la phase 4. Mais il y a plus de projets dans la phase 4 que dans quasiment toutes les autres phases. Donc,
elle est longue.
Ah, bah oui, mais c'est une phase de transition.
On a commencé avant le Covid, j'ai l'impression, la phase 4.
Ouais, pendant. Ouais. Bah oui, un peu après.
C'est long quand même. Ouais. Ouais. Pour le Patreon, on a parlé de Miss Marvel, ça vous intéresse? On a fait Moon Knight aussi.
Oui.
Et là, on va faire She-Hulk en août.
Avec sûrement un petit bonbon sur la série Groot, si jamais on sent qu'il y a quelque chose à en dire, faudra voir.
Peut-être The Boys aussi.
Moi, je serais intéressé de parler de The Boys parce qu'il y a bien plus de choses à dire que sur Thor 4 pour le coup.
Donc ouais, si vous voulez nous rejoindre et découvrir nos épisodes sur les séries télé 6 mois en avance, c'est sur patreon.com/plan-séquence. Moi, du côté de la saga, en ce moment, on a fait la trilogie du dollar, et je vais m'attaquer à une autre saga très sympathique avec des vampires qui brillent, Twilight. Et je vous conseille de venir parce que voilà.
On va se marrer.
Si vous pensez que c'est drôle de m'entendre parler de mauvais films de super-héros, alors attendez, quand je parle de mauvais films de vampires, là, vous n'êtes pas prêts.
Ouais, non.
Prochain film, c'est quoi ?
Le prochain
Black Panther
film, ce que c'est Black Panther, je suis pas sûr, on a eu aucune image. On a... Ouais, si, ça doit être ça. Hein. Ouais, ouais, ça doit être ça. Mm.
Avec Namor.
Avec Namor.
Ah, c'est Namor.
C'est Namor, c'est que va-t-il advenir.
Namor, je suis un sous-marin.
Que va-t-il advenir de Shuri?
Qui va devenir Black Panther?
Non.
Ok.
C'est toi qui m'as défendu l'idée, c'est toi qui m'as défendu l'idée, wesh. Mais ouais, Ryan Coogler, fais gaffe à tes fesses, on arrive. Hein.
Ouais, pauvre Coogler. Mm. Enfin, en même temps, je...
Est-ce qu'on doit les plaindre?
Non, mais je préférais que Coogler fasse des films...
Oui, bah des films à lui, enfin des... ouais. Sans franchise, quoi. Ouais. Mm. Je suis bien d'accord.
Puis il a fait Creed, il a fait ça, j'aimerais bien qu'il sorte un petit peu. Mm. Ses premiers films, il était sympa.
Ah bah, Fruitvale Station, c'est vraiment trop cool.
Eh bien voilà. Mm. Nous, on a transpiré au moins là, 5 litres d'eau chacun. Donc,
on va aller finir de mourir.
On va aller mourir gentiment. On va aller voir l'éternité et on va mourir.
Ouais. Voilà. On va faire notre petit vœu.
Donc c'est peut-être pour ça que je suis un peu gronchon et que j'ai pas trop aimé le film. Peut-être parce qu'il fait trop chaud. Voilà. Faut se plaindre à Dieu.
J'espère avoir essayé d'être... Avoir essayé d'être nuancé un petit peu.
Je dis ça à chaque fois et tu te fais embrigader.
Mais il y a des choses que j'aime bien dans Thor 4.
Avant de se quitter... Je vais remercier
les patous.
Donc les very important patous qui sont toujours là pour aider le podcast financièrement et puis avec leur soutien. Et c'est un plaisir de faire des podcasts pour vous.
Merci à vous.
Donc je remercie Alexis, Aurélien, Claire, Lizzie, Ced, Océane, Seb, Luna, Alex, Jérémy, Sarah, Dabor, Béa et Barbara.
Merci à vous.
Ça fait du monde, hein?
Eh ben ouais, c'est trop cool.
Ça commence à faire du monde. J'ai pas eu le temps de trouver des noms pour les westerns. Je trouve des noms un peu marrants, ouais. Mais là, j'ai pas eu le temps de trouver des noms en rapport avec Axel Rose. Voilà, à la prochaine, tout le monde. Bisous.
Salut.